tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Bahreïn.
Pas content, pas content.
Cette semaine, on va essayer justement d'évoquer tout le Grand Prix, je dirais même tout le week-end du Grand Prix.
Pas content.
Et donc, pour ces raisons particulières, on a décidé de modifier un peu, de bousculer un peu les habitudes pour cette émission. Alors, comme vous l'avez entendu, Dino est là.
Pas content, pas content.
Et donc, exceptionnel.
C'est la lutte. Ah non. Je me trompe de sujet, excusez-moi.
Tu te trompes d'heure, ça c'était dimanche, mais plus tard dans la journée. Non, pour nous accompagner, eh bien, c'est un de nos chroniqueurs. Mais qui est-ce donc, Dino?
C'est Steph Coeur. Non, je déconne. Non, c'est Ben. Non, je déconne. Non, c'est Fab. Non, je déconne. C'est qui le quatrième? Merde. Il a un nom bizarre. Gugus. Gus. Bienvenue, Gus.
Bonsoir.
Et pour être franc avec nos auditeurs, il faut savoir pourquoi Gus.
C'est pas lui qu'on voulait en premier. Mais bon,
c'est pas un. Hein? Pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que lui, au moins, il a été rapide à répondre aux mails.
On a appliqué la règle, on a envoyé un mail à tout le chroniqueur en disant voilà, le premier arrivé sera le premier servi. Je crois et que voilà. Je l'ai envoyé à 3h du mat et Gus a répondu à 5h du mat.
Voilà. Alors Dino, comme je le disais, on va bousculer. Alors il y aura les, on va revenir sur la course, on va faire le top 10. Voilà. Mais par contre, on va dire, on va faire une première partie un peu exceptionnelle, hein, un peu sérieuse.
Oui.
J'ai envie de dire, hein.
On va parler monsieur 29%. Non, je déconne. Assurez-vous.
Et donc, pour une fois, je vais pas vous parler de la course, hein, mais on va en reparler après. J'ai plutôt envie de vous demander quelles sont vos impressions aujourd'hui, maintenant. On est mardi. La course a eu lieu dimanche. C'est bon. Le week-end s'est terminé. Les pilotes sont repartis du Bahreïn. Quelles sont vos impressions là, maintenant, que, entre guillemets, tous les problèmes dont on a parlé, je vais pas dire sont derrière nous, mais en tout cas, le week-end est passé.
C'est intense comme question, Cindy. Non, moi l'impression que j'ai, je vais faire référence à une citation que, enfin une phrase qu'a dit Jean Todt ce week-end, où il dit voilà, il y a eu des incidents. Maintenant, on ne sait pas si sans la F1, il y aurait eu moins d'accidents ou s'il y en aurait plus. Parce que malheureusement, le truc c'est voilà, c'est qu'il y a eu des événements qui sont déroulés. Le Grand Prix s'est bien passé. Il n'y a pas eu la grande manifestation qu'on attendait, qui devait remettre en cause le Grand Prix. Maintenant, il y a eu plein d'événements autour, et on sera toujours incapable de dire si c'est le Grand Prix qui a suscité ça ou s'il y aurait eu quand même de la contestation. Enfin voilà, donc je suis content que ce soit bien passé pour le Grand Prix. Maintenant, sur ce qui s'est passé en dehors, je pense qu'on va y revenir un peu plus en détail. Je suis moins content.
Gus.
Ouais, c'est le même sentiment que j'ai. Il y a eu des incidents, il y a eu un mort, il y a eu plein d'arrestations. Après, est-ce que sans la F1 ça serait passé, on saura pas. J'ai quand même quelques regrets sur les déclarations des différents acteurs de la F1 qui ont parfois un peu oublié dans quel contexte le Grand Prix se déroulait. C'est juste ça.
Notamment les pilotes. Alors là, je vais tout de suite entamer en commençant par un drive-through que j'attribuerai aux pilotes qui ont parfois, quand on leur a posé la question sur le Bahreïn, à la limite, j'aurais préféré que certains se taisent. Je pense notamment à Felipe Massa qui a dit, bah écoutez, moi quand je suis arrivé, il n'y a pas eu de problème, on a été bien accueillis et tout. En oubliant que quand même derrière, bah, d'abord pour les mécaniciens des équipes, il y a eu des problèmes et que pour la population bahreïni, il y a aussi eu des problèmes. Alors après, ça nous appartient pas ça appartient à personne de choisir des camps. Ce sont des sujets qui nous dépassent. Mais voilà, je trouve que les certains pilotes, dans les déclarations, on voyait bien qu'ils étaient dans leur bulle. Donc il y a ce côté décalage à nous dire, non, mais moi tout s'est bien passé. Ben, on se doute bien que tout s'est bien passé. T'as pas besoin de nous le dire, hein. T'es un pilote. S'il y a bien des mecs pour qui ça se passe bien pendant un Grand Prix, c'est toi. Vous arrivez en hélicoptère sur les circuits, vous faites un peu de trajet jusqu'à votre hôtel. Voilà, enfin, c'est pas vous qui êtes les moins confortables dans cette situation-là.
Et ceux qui ont été donc les plus proches, on va dire, d'événements, hein, donc c'est le fameux cas Force India.
L'invisible.
Donc Force India, donc ça s'est passé, donc c'est dans la nuit de jeudi ou de vendredi?
Mercredi soir. Force India mercredi soir et Sauber jeudi soir.
Voilà, donc ils rentraient à leur hôtel et donc il y a eu un bouchon causé par une manifestation et il y a eu donc un cocktail Molotov qui est arrivé à on dit 2,50 m, c'est ça, de la voiture.
Alors, en fait, Force India, ils ont été pris, en fait, dans une manifestation. Sauber, ils ont été pris dans un bouchon. Ils ont vu des hommes en cagoule arriver dans la direction de la file de voiture où ils se trouvaient. Donc, le chauffeur a tout de suite eu le réflexe de se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence et de tracer. Donc, voilà, c'est pas vraiment des incidents, c'est plus la traduction, quand même, tout d'un coup, cette bulle qui est la Formule 1 que je décrivais tout à l'heure avec les pilotes qui sont dans leur bulle, cette bulle qui est la Formule 1, ils sont quand même tombés sur la réalité du Bahreïn, qu'on le veuille ou non, ils ont été confrontés.
Donc, qui a eu une conséquence serrée pour Force India, puisque, donc on l'a dit, donc
plusieurs.
La conséquence que eux ils avaient voulu, c'est-à-dire vendredi après-midi, n'ont pas participé aux essais libres 2 pour rentrer plus tôt à leur hôtel.
Oui, parce qu'il faut quand même signaler que c'était le vendredi, jour de prière dans les pays musulmans, et c'est généralement le jour de prière, c'est là où se déroulent les grosses manifestations.
Bah oui, forcément, les gens se regroupent. Donc,
et il y avait une grosse manifestation qui était prévue, et d'ailleurs ce qui était entre guillemets très drôle, c'est que le communiqué de la journée de Force India a été publié pendant les essais libres 2, et que les communiqués de la plupart des équipes sont arrivés très très vite après les essais libres 2, parce que tout le monde voulait quitter le plus vite le circuit pour retourner aux hôtels.
Et donc il y a l'autre conséquence, dont là où ils ont été plus victimes, et là pour mon coup, moi c'est mon drive-thru, c'est contre la FOM, hein, parce que personne n'est dupe de ce qui s'est passé samedi. Ben d'ailleurs, non. Même Force India a dit « Oh, on dit rien, mais tout le monde a compris
». On peut même penser qu'ils le savaient avant, que soit qu'ils avaient été prévenus, soit qu'ils subodoraient ce qui allait passer. En justement, tout le reste du week-end, en étant un peu en décalé par rapport aux fois où ils vont sur la piste, c'est-à-dire en sortir les premiers.
Ils ont tout le temps été les premiers à sortir dans les séances.
Normal, ils avaient besoin de rouler puisqu'ils ont pu compenser. Et c'est vrai que normalement, on aurait dû les voir. Finalement, ça s'est résolu. Dimanche, on les a vus, mais là, c'était difficile de ne pas les voir. Oui. Mais samedi, c'était très clair. Alors que non. Je crois qu'ils ont demandé à Bernie, non, il n'y a rien.
Oui, non. Non, Bernie a même dit, on s'en fout des équipes qui sont 9e et 11e. Quoi. Enfin, c'est... Prenez-vous ça, quoi.
Non, mais quand même, Bernie qui avait quand même sorti cette phrase absolument merveilleuse la semaine dernière en Chine, où donc la FIA officialise le fait qu'on va aller à Bahreïn. Donc Bernie est assailli par les journalistes qui disent « Mais est-ce que vous allez aller au Bahreïn ?» Et Bernie qui répond « Vous rigolez, c'est trop dangereux. » C'est-à-dire qu'on peut aimer ou ne pas aimer Bernie, mais ça reste quand même un mec... Moi, j'adore lire les déclarations de Bernie parce que il a aucune limite, ce mec. Et là, te sortir ça, voilà. Même être en Chine et te sortir en Chine, oui, mais vous savez, on va dans d'autres pays où il n'y a pas les droits. Prenez par exemple la Chine. Voilà, il y a que pour faire ça, quoi.
Alors, on a aussi observé peut-être une autre conséquence. Là, c'était plus au niveau des tribunes, qui étaient quand même vachement clairsemées.
Juste sur Force India, on peut aussi citer une autre conséquence, c'est qu'il y a deux de leurs employés.
Ah oui, qui sont rentrés.
Je me rappelle bien, c'est un analyste de données et puis un technicien sur les pneus ou un truc dans le genre, je sais plus, qui ont décidé de quitter Bahreïn vendredi ou jeudi soir.
Là, ça s'ajoute à l'employé de Williams qui s'est fait.
Là, voilà. Bon, là, par contre, sur les gens de chez Force India, comment s'appelle le directeur adjoint de l'équipe de
Fernley.
Fernley a dit que il comprenait parfaitement et que donc il n'y avait pas du tout derrière le licenciement ou quoi que ce soit.
Bah là, oui, ça aurait été de mauvais goût quand même. Et donc oui, je disais, on a eu des tribunes extrêmement clairsemées quand même à ce week-end. J'ai envie de dire, il n'y avait même pas les invités.
Avec cette magnifique citation du patron du circuit, qui pour dire voilà que son Grand Prix a bien marché, il a dit « On est quand même le seul pays au monde où 10% de la population se trouve sur un circuit. » Bon, déjà en même temps, vous êtes 1,2 million. Ça aide. Et puis en plus, c'est faux. On a bien.
Ah non,
si vous avez fait 120 000 visiteurs ce week-end, je sais pas où vous les avez trouvés.
J'ai regardé la session de vendredi matin sur Sky. Ils ont compté à la main en fait les nombres de gens, personnes qui étaient dans la tribune. C'était autour de 150.
La tribune principale en plus.
Oui.
Ouais, la tribune, c'est quand même la tribune. Mais voilà.
Bon, il y a toujours moins de monde le vendredi, mais là à ce point-là, on aurait dit la Turquie en fait. Alors à noter, hein, que on a eu Rose Brown qui a sorti cet éclair de génie samedi, qui se rend compte samedi qu'il faudrait peut-être que les équipes se réunissent autour d'une table pour réfléchir à l'avenir de la F1 au Bahreïn.
C'est-à-dire qu'il prend 8 mètres de pincettes, quoi.
Voilà.
Oui, mais en même temps, ça reste aussi fidèle à la stratégie. C'est-à-dire que depuis le départ, la position de la F1, c'est de dire, on va aller voir. Et si jamais il y a un problème, on réfléchira à la question. C'est le problème du Bahreïn, en fait. C'est que pourquoi est-ce qu'on y est allé? Parce que les autorités ont dit que ça se passait bien. Et que, de fait, tout le monde a été un peu dépendant de ce que disaient les autorités. Quand on entend la FIA qui dit « on va aller au Bahreïn parce que on nous garantit sur place que la sécurité sera bonne », enfin, voilà. Enfin, comment ça se fait que vous faites confiance aux autorités bahreïnistes? C'est bien ça,
oui,
le problème.
Donc
c'est ça aussi le truc. C'est que moi, je reste quand même intimement convaincu que fallait quand même que la F1 se trouve dans cette situation-là, qu'elle se mette la tête dans le caca pour bien mesurer l'étendue de la décision qu'elles avaient prise. Et j'en suis content qu'aujourd'hui Rose Brown dise faut peut-être qu'on y réfléchisse pour voir ce qui va se passer à l'avenir et compagnie.
Alors bon, aujourd'hui, quelle est la conséquence sur l'image de la F1? Parce que pour le coup, on a parlé de la F1 au-delà, justement de la sphère commune habituelle médiatique, avec d'ailleurs un Bernie qui a pas hésité à dire que finalement,
pas, en fait.
que finalement, c'était de la pub.
Je ne trouve pas, en fait. C'est-à-dire que ce qui m'a choqué, c'est de voir par exemple ce week-end la véritable seule mention qu'on a fait du Grand Prix de Formule 1, c'est pour dire que Romain Grosjean avait été le premier Français à faire un podium depuis 14 ans sur iTélé. Voilà, je trouve qu'en France, on n'a pas beaucoup parlé auprès du grand public du fait que voilà, ça se passait dans un pays où il y avait des troubles. On en a fait une ligne, mais on n'a pas fait des grands documents. Voilà, donc je trouve que c'est nous, ça nous concerne parce que voilà, on est des fans de Formule 1 et que on suit la Formule 1 de près, etc. Donc c'est forcément un sujet qui fait débat. Mais j'ai l'impression que ce débat, il est resté globalement quand même très cloisonné dans le milieu de la F1 et qu'en dehors, on en a un peu parlé sur les sites de sport généralistes. Et puis après, ça se contente d'une ligne ou d'une petite phrase. Voilà, j'ai vraiment pas l'impression. D'ailleurs, la preuve, quand on regarde quand on voit que TF1 a battu son record d'audience,
oui, oui.
Depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi, donc c'est dire que les gens ont quand même regardé le Grand Prix. Et voilà que ça a pas changé grand chose, quoi. Donc.
Ce qui est dingue, c'est qu'il y a même un record. Alors, pourquoi il y a eu ce record? Il y a plein de choses qui peuvent expliquer plus ou moins. Alors, il y en a une, mais je pense pas que ça soit la bonne. Hein, je le dis tout de suite. C'est que RMC n'a pas fait n'a pas fait le suivi de la course.
Oui.
Pas pour des questions de Bahreïn et tout ça. Hein, c'est juste que on était premier tour d'élection présidentielle,
voilà.
Et qu'ils ont fait un spécial élection.
Pour rien à dire.
Voilà, bien sûr, surtout à cette heure-là.
À 14h, ils avaient strictement rien à dire sur l'élection.
Mais, alors pour le coup, je pense pas que ça soit, que ça a un effet, parce que, en tout cas, sur les fans, je pense pas qu'ils ne font qu'écouter RMC. Je pense qu'ils sont plutôt du genre à mettre l'image du Grand Prix et mettre le son d'RMC,
voilà.
Mais pas seulement écouter RMC. Donc, entre guillemets, le transfert d'audimat, je pense, doit pas être trop important. Ce dimanche après-midi, au niveau des émissions, il y avait rien d'exceptionnel. Il y avait Drucker le dimanche après-midi, comme d'habitude.
Je crois me souvenir que l'ancien record de la Formule 1, c'est Bahreïn en 2010.
Moi, j'avais vu Abu Dhabi en 2010.
C'est la dernière fois qu'il y a eu autant d'audience, en fait, Abu Dhabi 2010.
Voilà.
Et Abu Dhabi et Bahreïn 2008, c'est le record d'automoto, de F1 à la Une.
D'accord, F1 à la Une, ouais.
Sinon, il y a eu des grands prix qui ont fait des scores au Brésil en 2006,
oui,
quand Alonso.
Oui, parce qu'il compare en plus pour les grands prix à 14h.
Oui.
Parce que on sait que notamment justement ceux qui sont à 18-19h, il y a parfois une audience un peu plus élevée.
Oui.
Donc c'est sur ce, bien évidemment, à 14h.
Je pense que c'était peut-être aussi lié à l'époque de l'année. Généralement, au moment du Grand Prix du Bahreïn, on est en vacances scolaires.
Oui.
Donc, voilà, peut-être le fait que ce soit un dimanche de vacances scolaires, un dimanche d'élection.
C'est ce que je me dis aussi.
Que, voilà,
je me demande si.
Peut-être un peu plus centré sur le sport que.
Il y a ça, et puis tu sais aussi, il y a le fait que peut-être beaucoup de gens aussi ont regardé le journal télévisé avant. Comme on était en journée d'élection,
oui.
On sait que voilà, l'audience d'un programme, ça dépend aussi beaucoup de ce qu'il y a avant. Et là, faut pas oublier que en étant le premier tour, peut-être que beaucoup de gens ont regardé le JT de TF1 et donc on n'ont pas changé de chaîne après. Puisque le pic, il a lieu en début de course, hein, pas à la fin. Donc il y a même pas d'effet Grosjean. Parce que s'il y a un effet Grosjean, il devrait plutôt être à la fin de la course. Parce que en début de course, il y a une position tout à fait normale. Hein. Vous pouvez pas prévoir ce qu'allait se passer.
Peut-être aussi le premier Grand Prix à 14h et que des fans qui n'ont pas l'habitude, qui se sont pas levés, se sont dit tiens, je vais voir ce que ça donne cette année.
Tout à fait, oui. Donc bon, là, on a parlé un peu de l'image de la F1. Qu'est-ce qui va se passer l'an prochain? Parce que on va bien revenir à Bahreïn l'an prochain.
Pour moi, il y a rien qui s'oppose à ce qu'on revienne au Bahreïn. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut faire attention aux conditions où l'on y va. On a clairement vu, et même Jean Todt l'a dit lui-même, que ils avaient maintenant des pièces qui font que sans doute la décision de la FIA aurait été différente. Je pense que l'année prochaine, s'il y a encore des menaces de troubles, ça sera toujours la même chose. Mais moi, je suis même pour qu'on retourne au Bahreïn. Ça voulait dire quoi aujourd'hui? De dire, on arrête d'aller au Bahreïn, ça sert plus à rien que la F1 est là-bas. On y serait allé pourquoi? On aurait mis un projecteur sur la F1 pour le lundi matin qu'on revienne et qu'on continue à faire notre petit business et qu'on oublie le Bahreïn. Voilà, on s'est intéressé au Bahreïn parce que la F1 y allait.
Mais après, imagine que l'an prochain, il y ait autant de risques, voire plus. Mais on ne sait pas comment ça évolue.
C'est là où je pense que l'expérience de 2012 aura été importante. Je pense que si l'année prochaine, il y a plus de troubles, ou la même situation, ou s'il n'y a pas eu plus de réformes et compagnie, je pense que là, pour le coup, la FIA prendra sa propre expérience. Je pense qu'on apprend aussi, il ne faut quand même pas oublier, c'est que la Formule 1 s'est quand même retrouvée dans une situation quand même très inédite dans son histoire. On a dit qu'elle est allée dans des pays qui ne respectaient pas les droits de l'homme, mais dans un pays où il y a des manifestations violentes et compagnie, c'est très très rare quand ils y sont allés. Ils sont allés dans l'Espagne franquiste, mais c'était juste avant la chute du franquisme. Il n'y avait pas encore de grosses manifestations. Donc là, c'est vraiment un cas exceptionnel. Ils ont appris, je pense. Donc ce qu'il faudra voir justement, et c'est aussi ce que j'attends, c'est de me dire voilà, on ira au Bahreïn. Si c'est la même chose, on verra s'ils ont appris de leurs leçons.
Est-ce que il y a des choses que vous vouliez rajouter ou pas par rapport à ce week-end
Rajouter quand même quelques petites infos comme quoi le week-end a notamment fait un mort parmi les manifestants.
Alors j'ai les chiffres hein, de la répression si vous souhaitez. Alors côté manifestants mais aussi côté policiers, hein, histoire d'être neutre. Hein. Alors bon au niveau des arrestations, il est estimé entre c'est des chiffres qui peuvent paraître précis, hein, mais c'est toujours des fourchettes entre 1000 et 1400 arrestations, que ce soit donc 1000 c'est plutôt les Nations Unies, 1400 c'est le Centre Bahreïnien des droits de l'homme. Au niveau des procès, on compte 2 condamnations à mort, 13 condamnations à perpétuité, 70 condamnations normales. Actuellement, il y aurait 405 procès devant les tribunaux militaires en cours, dont 47 personnels médicaux, hein, puisqu'on sait qu'il y a des médecins qui ont été emprisonnés pour avoir soigné des manifestants. Au niveau des blessés, donc c'est un bilan provisoire, on compterait environ 600 blessés du côté des manifestants, 391 policiers. Et donc au niveau des décès, du côté des manifestants, selon le gouvernement, il n'y en aurait que 20. Selon les manifestants, donc il y en aurait 37. Donc 4 en prison, hein, donc le 37e, hein, donc ça a été évoqué hein, justement ce week-end. Il y a eu 4 policiers tués et 44 à 61 disparus.
Et depuis quand tout ça?
Tout ça, alors faut pas oublier que la répression, les événements au Bahreïn, ça date de l'an dernier. Hein. C'est pas que ce qui s'est passé sur les 2-3 derniers mois.
Hein. Rassure.
D'accord. Non.
Oui, quand même. Fort heureusement.
Je commençais à me liquéfier là.
J'ai dit bien entre guillemets, hein, parce que c'est quand même des chiffres assez graves. Non, depuis l'an dernier, notamment la première protestation qu'il y avait eu l'an dernier.
Donc on peut citer effectivement le cas de ce manifestant qui apparemment sur le témoignage a été arrêté par la police dont le corps a été retrouvé mort quelques heures plus tard avec une plaie à l'abdomen je crois. Donc il y a une enquête qui a été ouverte les autorités locales ont promis que peu importe l'identité des responsables, tout le monde serait amené devant la justice.
Messieurs, dans ce cas, je vous propose peut-être de revenir au sport.
Oui, parce qu'il y a quand même eu un Grand Prix.
Parce qu'il y a eu un Grand Prix, et j'ai presque, on va dire, c'est presque cornélien, c'est que, alors, vous allez me dire votre avis, mais bon, vous savez que le mien, il est particulier. On a eu un beau Grand Prix.
Ah d'accord, ouais, voilà.
Oui, non, mais... Non. Non, je préviens, mais on a eu un Grand Prix où il s'est passé des choses. Ce que je veux juste dire, c'est que ça aurait été tellement plus simple si le Grand Prix avait été chiant. Tu comprends? Se
Oui.
dire, voilà, c'est un Grand Prix chiant, on oublie tout et tout ça. Là, c'est vrai qu'il y a le côté un peu paradoxal de se dire qu'il y a eu un Grand Prix finalement assez intéressant. Voilà, c'est bizarre. Donc sinon, cette course, vous l'avez trouvée comment?
C'était bien plus intéressant que tout ce que nous a proposé le Bahreïn jusque-là, au final.
Oh oui.
C'est...
Et toi, Dino? Tu devrais être content!
Non, c'était une belle
Ah non,
course.
non, faut que t'arrêtes, Dino, parce que t'aimes Schumacher, t'aimes plus Schumacher. Quand on te dit, ouais, tu devrais aimer Schumacher, tu nous dis, oh mais non, je préfère Vettel maintenant, et Vettel, il gagne.
Mais tu me demandes, est-ce que tu me demandes si j'ai aimé la course? Je suis pas en train de te parler de la victoire de Vettel. Je te demande si j'ai aimé la course. Si je prends un jugement juste sur la course, si tu veux que je fasse mon fan de Vettel, je vais dire, j'ai adoré la course. Maintenant, si tu me demandes un jugement sur la course, je vais faire abstraction de la victoire, de la splendide victoire de Sébastien Vettel. Je vais me concentrer vraiment sur la course. J'avoue que j'ai été un peu déçu, notamment à cause des pneus Pirelli. Il n'y a pas eu vraiment, je trouve, de stratégie. Ça a surtout été de la gestion de pneus. Voilà, je trouve que ça a été une course sincèrement intéressante à regarder, mais beaucoup moins passionnante que la Chine par exemple, et même en termes de spectacle, voilà, il y a eu quelques petits trucs, mais c'est pas une course dont je me souviendrai, sauf pour le fait que c'est Vettel qui a gagné.
C'est pas ce que j'ai le plus retenu, mais oui, d'accord.
Oui. Regardez les fanboys.
Mais oui, fanboy, et on l'assume.
Ah mais tu peux rien dire, t'es fan de Ferrari. Avec quoi tu veux faire ton fanboy aujourd'hui?
Ah, moi, je laisse ça de côté.
Oui, c'est ça, ouais.
Vous avez vu comment il a dit le mot fanboy de Ferrari, comme si lui n'en était pas un?
Mais moi, j'en suis un.
Ah, il s'en rappelle encore à la réunion.
Là, d'ailleurs, merci de m'y faire penser. Fratelli.
Ah non.
Non, 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 non.
Ça fait 20 mm en plus.
Donc, on va revenir sur les qualifs. Et cette semaine, j'ai envie de dire, il y a deux places du con. Bon, il y en a une qui devient un peu trop une habitude cette année.
Oui.
Hein. C'est Jean-Éric. Bon, là, il fait même pas 18, il fait 19. Mais c'est normal parce qu'on a eu.
Là, c'est quand même une belle place du con. Parce que Jean-Éric qui cale en Q1 est à son coéquipier qui fait un super truc en Q3.
Oui, c'est.
Là, vraiment, c'est pas place du con, genre, bon, ça s'est joué entre moi et mon coéquipier. C'est place du con.
Bon, voilà. Là. Mais j'ai envie de dire, il y a aussi une belle place du con à la 18ème place.
Oui.
Ah, quand même. Je sais pas si ça lui est déjà arrivé, hein, notre cher Michael Schumacher. D'aussi mal se qualifier.
Bah oui.
Récemment, hein, je veux dire.
Ah, récemment, bah il a une Mercedes. Hein. Non, mais ça a dû arriver. Même depuis son retour.
Oui, bah oui.
La Belgique, l'an dernier, rappelle-toi la Belgique.
Et donc, forcément, bah, s'il y a deux places du course, ça veut dire qu'il y a une Caterham en Q2.
Oui.
Et oui.
Ah, ouh.
Et qui, Kovalainen, 16ème. Bravo. Ouais, non, c'est rare quand même, hein, donc faut quand même l'applaudir.
Oui, c'est rare, mais il y est parce que Schumacher, parce que chez Mercedes, oui, on a un problème avec le DRS. Voilà, dire que bon, c'est bien de le faire. Maintenant, sur le circuit de Bahreïn, on a quand même bien vu en qualification qu'il fallait avoir le bon le sortir au bon moment parce que la piste change beaucoup. Voilà, faut avoir le nez fin et que là, bah quand t'as une Mercedes qui roule pas et que t'as une piste qui te permet de pouvoir améliorer sensiblement ton temps. Voilà, c'est pas trop dur. En plus, Schumacher a renoncé à la qualif parce qu'il a dit j'aurais pu y aller avec des pneus tendres et me qualifier pour Q2, mais j'aurais bousillé un train de pneus tendres, tout en sachant qu'on n'aurait pas pu réparer le DRS. Donc du coup, j'aurais eu beaucoup de mal à faire une belle performance en qualif. Donc valait mieux que je parte 22e, garder des pneus neufs pour faire la course. Ce qui n'a pas
empêché de changer de boîte. Il n'y a pas un changement de boîte pour.
Oui, après il change de boîte en plus.
Ah, en plus. Ouais. À noter, donc les Williams. Petit score pour les Williams, 15 et 17. Les Williams qui étaient un peu nulle part, hein, quand même.
Mais ça fait 3 Grands Prix qu'elle se qualifie au-delà du top 10. Hein. Il y a que Maldonado qui s'est qualifié en Q3.
Sinon, une bonne qualif pour Massa. Bah si.
Les 14e.
C'est une bonne qualif pour Massa.
Oui.
Ah bah, arrête, sur les précédentes.
Il n'a pas été mieux classé.
Ah écoute, en Chine. Ah non, c'est vrai.
Ah ah, mauvaise langue là.
Oui.
Ah non, c'est vrai qu'il a été deux fois 12e.
Ah bah tu vois, c'est beaucoup mieux.
C'est une qualif moyenne pour Massa.
Voilà.
Bon, ça, voilà.
Ou alors on peut dire aussi c'est presque bien.
C'est moyen.
Non, non, non. Aujourd'hui c'est presque bien. Bien c'est 12, presque bien c'est 14. Très bien c'est 10.
Mais surtout, peut-être qu'on retiendra de la Q2, c'est donc bah, la 11e place de Kimi, mais qui finalement sera ça va être un avantage.
C'est l'élément clé de sa course, surtout.
Voilà, c'est l'élément clé, tout à fait, c'est l'élément clé de sa course. En Q3, on notera quand même la 10e place de Paul Di Resta, les Force India qui n'ont pas été à la fête depuis le début de la saison.
Oui, et là qu'ils choisissent le bon Grand Prix pour se qualifier... Et se mettre en évidence.
Oui.
Les sponsors devaient être super contents. Ah merde, chier. Pour une fois, on nous voit et
on nous voit pas. Alonso 9. Alors Dino, c'est bien ou pas pour Ferrari 9?
Ça fait 3 fois de suite, je crois qu'il est qualifié 9e, donc c'est régulier.
Oui. Perez 8. Grosjean 7. Ricciardo à la 6e place. Hein, c'est ce qu'on évoquait. Là, c'est... Autant en Chine, c'était très resserré. Là, c'est vraiment le grand écart entre les deux Toro Rosso.
Ah, les conditions de piste aident aussi. Hein.
Nico Rosberg à la 5e place.
Mais après, c'est-à-dire que après sur Ricciardo, c'est-à-dire que c'est ça aussi le piège de ces qualifications en trois parties. On ne sait pas ce qu'aurait fait Vergne s'il avait été avec Ricciardo au même moment en piste. Mmh. Donc c'est là où c'est difficile aussi de comparer la performance de Vergne et de Ricciardo. Ils n'ont pas roulé dans les mêmes temps, au même moment, dans les mêmes conditions. Donc c'est là où c'est très difficile finalement aujourd'hui. C'est devenu très difficile de comparer les coéquipiers.
Et puis il faut dire aussi que globalement sur toutes les qualifs, un peu comme en Chine, les écarts ont été très faibles. Donc forcément, dès que tu perds un ou deux dixièmes, tu tombes de 4, 5 places facilement. On a au moins en Q1 et en Q2 facilement eu 10 à 15 pilotes dans la seconde. Nico Rosberg a fait 5. Donc c'est bien, la Mercedes va vite sur un tour.
Oui.
Non mais il faut le dire.
Ils ont le DRS spécial.
Oui voilà, oui. La Bahreïn, ça les aide pas.
Oui. Button à la 4e place. Qui espérait peut-être un bon week-end.
Oui, oui. Il pouvait.
Il pouvait. Weber 3, Hamilton 2, et donc Vettel à la première place.
Oui. Et j'aimerais qu'on salue le tour de Vettel. Ça m'a énervé, c'est que... Alors, la semaine dernière, on nous a fait chier avec le tour de Rosberg. Il y a deux semaines, on nous a fait chier avec le tour d'Hamilton. Allez, super tour, on va regarder le replay et compagnie. Et là, pendant les qualifs, rien. Quand même. Il s'est quand même qualifié devant les McLaren. Bon, d'accord, la Red Bull était un peu plus fringante. Mais ça veut dire Mike s'était pas mis en première ligne. Je crois même qu'il a jamais été en deuxième ligne cette année, Vettel. Donc là, d'un coup, il se bat pour la qualif. Il fait un très beau tour. J'aurais aimé qu'on insiste un peu plus dessus.
Ah, tu comprends, on a été habitué avec l'an dernier, donc ça nous paraît moins incroyable alors que ça l'est. C'est ça le pire.
Oui, voilà, c'est ça qui est grave. Je préfère récompenser, enfin, je ne dis rien. Ça m'énerve.
Vettel qui en est déjà à sa 31e pole position quand même.
Ça fait mal au cul, hein. Je sais. On s'habitue.
Oh, Dieu.
Il est presque à mi-chemin du record.
Bah, c'est-à-dire qu'il, sur son strapontin, quand même, est coincé déjà entre Fangio et Mansell.
Ah oui.
Il y a pire comme place.
Il y a pire comme place, hein, sachant que Mansell est à 32. Donc,
Il sera battu cette année, je pense, quand même.
Voilà. Et que, à 33, il y a deux personnes, hein, pas très connues, hein, une qui s'appelle Jim Clark et l'autre Alain Prost.
Voilà.
Voilà. Ouf. Donc, s'il en fait deux, voilà, vous voyez un peu le niveau où il est, quoi. Mais si on va passer à la course.
T'as pas dit les statistiques de la pole, Shinji?
Ah oui, c'est vrai.
D'habitude, tu le fais, mais là, tu le fais pas. Qu'est-ce que t'as contre Vettel? Oui. Hein? Qu'est-ce que t'as?
Mais écoute, c'est ce grand prix qui me trouble.
Oui, donc, bah, c'est pas le grand prix qui te trouble, Shinji. On sait très bien qui c'est qui te trouble. Hein.
Oui. Oui, c'est mais, un
peu de patience.
De toute façon, écoute, je ne peux pas apprécier le geste qu'il a fait. Parce que bon, il y a des gens qui envoient des autres pilotes dehors, hein. Bon, à la limite, on s'en fout. Hein. Mais des gens qui font des oreilles de lapin.
Non mais sincèrement, j'ai envie de dire, c'est là où quand même, moi je dis quand même bravo, parce que c'est quand même derrière les, enfin en dehors de l'environnement périphérique de la McLaren de Lewis Hamilton, s'en prendre à Kimi Raikkonen, c'est quand même se confronter au deuxième sujet de dangerosité pour un pilote de Formule 1. Parce que voilà, face à Lewis Hamilton, t'as le risque de sortir de la piste. Bon, maintenant on sait que c'est face à Rosberg aussi, mais quand même, t'en prends apprendre à Kimi, c'est faire face à une énorme majorité quand même de fans hystériques.
Et c'est vrai que, souviens, la semaine dernière, j'avais parlé de ce Quator qu'il ne fallait pas qu'il se rende compte. J'avais oublié de mettre Lewis. Tu sais, le super Quator, c'est-à-dire Kimi, Kamui, Romain et Pastor.
Et Schumacher.
Ouais, si tu mets Schumi, Lewis et Rosberg, puisqu'on a découvert qu'il peut être dangereux.
Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, il y a 15 ou 16 pilotes qu'il faut pas qu'ils se rencontrent. C'est un gros genre, faut pas qu'ils rencontrent Maldonado.
Non, puis de toute façon, on sait que maintenant, la FIA s'en fout, donc. Donc oui, tu voulais les chiffres.
Oui.
C'était la 39e pole position pour Red Bull, la 194e pour Renault, bientôt la 200e, hein, ce rythme-là.
Ah, c'est beau.
Peut-être même dès cette année, hein, pourquoi pas, 200 pole positions, à une moyenne de 210,807 km/h. T'es content? T'as les
statistiques? Incroyable. Ah, c'était trop beau, Shinji.
Oh, ça va vite.
Avec un temps de 1:32,422.
Ah, il me manquait ça. Je dois reconnaître que maintenant que tu l'as dit, je me sens beaucoup mieux. Je suis plus léger, Shinji.
Tu te rends mieux compte.
Voilà. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Tu vois, c'est comme ça que ça me met d'humeur.
Dédicace à la Réunion.
Et 20 mm en plus, allez hop.
Mesdames, messieurs et autres canards, et peut-être le marsipulami, hein, s'il nous écoute, voici le top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors Dino, qui non pas qui sont les snorkies, mais
qui a le droit,
Vous avez remarqué, moi j'ai pas chanté le générique des snorkies, non. Lui, il part tout de suite. Qui ne fait pas partie du top 10, Dino?
Eh ben, ne font pas partie du top 10, Timo Glock et De La Rosa qui sont 23e avec 7 points respectivement.
Un beau score pour eux.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Savoir que le vainqueur accumulé 2411 points.
Un nouveau record.
En 22e position, Maldonado détient 9 points. En 21e, Petrov le devance avec 12 points. Nico Hülkenberg 20e totalise 15 points. Bruno Senna 19e totalise 22 points. 18e, Daniel Ricciardo avec sa magnifique course totalise 30 points. 17e, Kamui Kobayashi totalise 36 points. Puis on a un petit step avec la 16e place d'Eki Kovalainen, 96 points, et qui se trouve derrière Perez, 15e, 110 points, 14e, Kartikeyan, dont je demande complètement qu'est-ce qu'il fout là, 16 points, 13e, Pic, 138 points, 12e, Vergne, 166 points, et c'est de l'arnaque, j'ose le dire, et 11e, Button, 300 points.
Alors, à noter, parmi ceux que nous on a donné, hein, qui sont hors top 10, alors moi j'avais donné un point à Button, parce que pour être honnête, j'avais hésité un peu avec Schumi, puis bon, vu que je pense que sans son pépin d'échappement, il aurait peut-être fini devant, voilà, j'ai mis un point à Button. Voilà.
Alors, vous allez voir que c'est quand même la même personne qui, dans une demi-heure, va nous dire « Oh non, mais il est quand même remonté de 9 places, hein !» Et donc, c'est bien le fait qu'il n'a pas donné de points à Schumi, qui a quand même remonté
J'aurais pu J'aurais pu remonté de 12 places, quand même. Hein, et comme a dit je sais plus qui dans Dimanche F1, hein, c'est plus dur de remonter de la 11e à la 2e place
d'accord.
que de la 22e à la 10e.
Et je laisse le public juger, je dis. Jugé par le public.
Gus, tu as donné un point à Pic.
Oui, parce que traditionnellement, je laisse la 10e place à celui qui a fait la moins bonne course parmi les qualifiés pour récompenser la qualif.
Et je précise. Mais vas-y.
Et
on n'a rien compris.
Oui. J'ai donné combien de points à qui?
Tu as donné un point. Je précisais que Dino avait aussi de points à Pic.
Ah, d'accord.
Et que les grammes.
Pic et que les grammes.
Cette vanne ne sera pas coupée au montage.
Malheureusement, non.
C'est trop bon. C'est pour nos amis de La Réunion, si c'est histoire de leur donner un peu le gaieté, il pleut.
Oui, j'ai donné des points à Pic parce que d'habitude, je laisse la 10e place pour les qualifs. Et j'ai hésité avec Ricciardo, mais vu la course qu'a fait Ricciardo, je me suis dit, bah autant mettre Pic parce qu'il s'est qualifié devant Glock et qu'il a fait une bonne course jusqu'à son abandon. Donc. Dixième.
Dino, c'est pour la même chose ou...
Non, moi, enfin, c'est vraiment pour le coup. Moi, j'ai mis Pic et Kovalainen aux portes, enfin, à la fin de top 10. Mmh. Et j'ai mis Kovalainen quand même pour souligner le fait qu'il s'était qualifié en Q2, donc c'est toujours bien. Même si je pense qu'il y a quand même des circonstances qui ont en sa faveur. Mais j'ai mis Pic devant parce que je trouve que vraiment, par rapport à Kovalainen, la performance de Pic, elle est vraiment super, super, parce qu'il a devancé Glock tout le week-end, qu'il a reçu dans le communiqué de Marussia de belles éloges de la part du.
Mais apparemment, l'équipe est très, très contente.
Voilà, l'équipe est très contente. Voilà, et puis, il a quand même devancé Glock. Il a mis deux voitures d'écart. Et puis, on a vu la différence, c'est qu'avec les pénalités de Maldonado et de Schumacher qui ont changé de boîte et qui ont pris 5 places, il s'est pas retrouvé 2 places devant, mais il s'est retrouvé 4 places devant. Et ça fait la différence. Et en course, il a été devant. Et bah, malheureusement, un problème de moteur, je crois, fait qu'il n'a pas pu terminer la course. Et c'est pour ça que je trouve injuste que on mette Vergne. Voilà, Vergne devant Pic. C'est quoi cette histoire? Vergne, il était 17e, il est arrivé 14e. Hein? Oh, les mecs, faut arrêter la fumette. En sachant qu'il y a eu des abandons devant, merde.
Et donc à la 10e place, il a marqué 437 points. C'est son premier point de l'année.
Bravo. Et...
Espérons qu'il en ait d'autres.
Oh.
C'est Felipe Massa. En Massa, donc moi je lui ai donné 2 points, Gus Gus aussi, et toi Dino, tu lui as même donné 4 points.
Okay, mais qu'est-ce qui m'a pris?
C'est là où le fanboy Ferrari ressort, hein. Ça c'est clair.
Oui, non, non, voilà, je trouve qu'il a fait une bonne course, il est à l'abri des critiques, enfin voilà, je trouve que c'est pas exceptionnel, maintenant c'est... on n'attend pas plus. De lui, donc il a fait le boulot qu'on attendait. Il a eu une belle bagarre avec Raikkonen en début de course, c'était assez plaisant à regarder. Voilà, il a défendu sa place, je crois, pas, plutôt pas mal face à Hamilton. Voilà. Avec une trapanelle.
Il fait ce qu'il a pu avec le matériel, il finit dans les 10 secondes d'Alonso, on peut pas lui reprocher grand chose au final.
À la 9ème place.
Ça nous passionne, Massa.
Bah, je sais pas.
Tu l'as pas mis, toi? Pourquoi tu l'as pas mis, Massa?
Si, je lui ai mis 2 points.
Bah, pourquoi tu lui as mis 2 points, alors? Raconte-nous. Confie-toi.
Bah, c'est par rapport à son classement. Et puis, enfin, voilà, c'est peut-être la meilleure course qu'il fait depuis le début de saison. En même temps, je l'ai mis 9e. Hein.
Mais de là à le mettre derrière Kimi, est-ce que tu crois que c'est raisonnable?
Ah oui, quand même. Ah. Oui, oui. Non, non, tu m'embarqueras pas dans des trucs comme ça. Hein. Donc d'ailleurs, Dino, hein, toi qui soulignais hein, que Schumi hein, avait quand même... gagner pas mal de places, des choses comme ça. Hein. Donc, on va quand même rappeler que Schumi, donc, il a fini 9e avec 522 points, mais que moi, j'ai pas donné de points, ça vous le savez déjà, mais que Dino non plus.
Mais oui, j'en ai donné. Ah non, j'en ai pas donné.
Hein, tiens, voilà. Bon, t'inquiète pas, Gus Gus non plus, il a pas donné de points.
Ah, c'est mon 11e. Mais là, parce que tu vas voir que ce qui fait que j'ai pas donné de points, moi j'ai le même argument pour Schumacher que pour Raikkonen. Alors que toi, je suis quasiment certain que tu vas avoir des arguments un peu différents pour Schumacher ou Raikkonen. Genre un truc genre, ouais, mais c'est plus facile de remonter de la 22e que de la 11e. Alors, je vois venir.
J'ai sorti il y a 10 minutes.
Tout à fait.
Voilà.
Alors que moi, je vais dire, voilà, ils ont eu des remontées faciles. En plus, c'est tout.
Dans ce cas-là, passons directement à la 8ème place. Vous allez voir, les écarts sont très serrés.
Il y a eu des matchs, ouais.
Ouais, on dirait pas comme ça, parce que Schumacher, donc 522 points, mais à la 8ème place, 545, c'est notre super malchanceux, celui qui ne veut plus passer dans les stands,
oh, plus là, jamais.
Il aurait mieux fait de faire une stratégie à deux arrêts, là.
Voilà, ou alors qu'il va virer.
Le problème, c'est que c'est les deux premiers arrêts qu'on foirait. Parce qu'il aurait dû dire, en fait, les gars, on va rester jusqu'à la fin de la course, puis là, on fera le dernier arrêt.
Ou bien, il fallait faire des arrêts, mais ne pas changer sa roue arrière gauche. Voilà. Ou droite. Non, c'était la gauche.
Ouais, c'était la gauche.
Donc, ce pauvre gars qui doit être viré, je sais pas.
Non, 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 il a eu le droit à un câlin de la part de Lewis.
Parce que ça fait quand même, parce que souviens-toi, il y avait aussi eu l'arrêt en Chine. Déjà, l'arrière-gauche.
Oui, mais alors, ils ont expliqué qu'en fait, en plus, ils l'ont changé après le premier arrêt. C'est et qu'il y a quand même un problème sur le deuxième, quoi. Donc, voilà, il y a vraiment eu un problème dans la procédure. Un problème, en plus, qu'ils ont déjà rencontré en Chine. C'est le même type de problème, je crois, c'est pas sur l'écrou, mais c'est plus sur la fixation de la roue.
Oui, sur l'anneau, là.
Voilà.
Oui, et d'ailleurs, cette belle image du gars de chez McLaren avec l'anneau et le gars n'a pas de gants. et l'anneau, il est chaud.
Oui. Voilà, faut pas non plus taper sur le bonhomme. D'ailleurs, chez McLaren, on l'a défendu, hein. Enfin, on a dit, voilà, bon, bah, y a un problème de procédure, c'est un problème d'organisation, etc. Lewis a dit qu'il allait voir le mécanicien pour le consoler, donc, voilà.
Surtout qu'en plus, leur fin, bon, après, il y a comment ça se passe véritablement avec, donc, les pistolets et les pneus. Mais leur système, en plus de feu est plutôt pas mal, avec ce système de petites diodes, vraiment caractérisé pour chaque. Ouais, non, mais c'est vraiment fait, c'est théoriquement pour éviter ce genre de choses, quoi.
Ah, c'est fait, non, mais c'est fait pour éviter que le mec parte alors que une opération n'a pas été terminée, comme on a vu chez Mercedes, la semaine dernière avec Schumacher. Mais voilà, là, ça sert juste à ce que le pilote sache qu'il peut effectivement enclencher les gaz parce que tout le monde a terminé. Mais bon, c'est ce que fait théoriquement le mec à la sucette. Sauf que voilà, là c'est un autre mec qui appuie sur les boutons pour dire voilà, j'ai fini. Mais voilà, globalement c'est le même but.
Ah oui, toujours.
La vraie innovation en termes de dépassement de ravitaillement, enfin de changement de pneus, c'est chez Mercedes et maintenant chez Ferrari, le système qui est greffé à la roue et compagnie. Voilà, Ferrari, on a pris le secret. Oui, on a un système en fait où ils mettent le pistolet, ils ont plus besoin de se faire chier maintenant. Ils mettent le pistolet tire la roue, ils peuvent retirer la roue avec le pistolet.
Donc Hamilton, hein, qui est noir, mais qui surtout pour l'instant a un chat noir.
Oui. Et surtout vert de rage en ce moment.
Il est de toutes les couleurs.
Voilà.
C'est un double rainbow Hamilton en ce moment.
Mais je trouve volé sur cette course. Parce que là, je vois 8e. Quand je vois les pilotes qu'il y a devant, quand on inclut le fait. Moi, je l'ai mis 4e Hamilton. Quand on inclut le fait qu'il a quand même perdu, je crois que dimanche F1, ils ont calculé 16 secondes.
Oui.
Qui finit à 20 secondes de la 4e place de Weber. Donc, il l'a dit aujourd'hui, j'aurais pu être 5e ou peut-être 4e.
Ouais.
Il a passé son temps à courir derrière le temps perdu en attaquant et compagnie. Moi, je trouve que pour le coup, vraiment, il a eu une course poisseuse et bah, il a essayé de sauver les meubles tels qu'il pouvait pendant la course. Il a fait preuve de détermination. Voilà, le dépassement sur Rosberg en est la preuve. Voilà, je trouve que sincèrement, pour moi, Hamilton, il mérite pas d'être que 8e.
Ouais.
On passe à la 7e place, messieurs.
Il n'y a que moi qui ai des trucs à dire sur Hamilton.
Non, je suis globalement d'accord avec toi. Ça fait qu'il a pas eu de chance et qu'il méritait sans doute mieux.
En même temps, tu parles tellement, tu dis tout. Alors.
Mais non, mais coupe-moi.
Non, c'est bon, on passe à la 7e place.
Ouais, voilà, passons au suivant.
7e place qui a marqué 548 points. Donc ça s'est joué
à
rien. Voilà. Oui, bah oui, à 3 points.
Oui, c'est toi malin. Qui nous écoute avec tes écouteurs. C'est à cause de toi que cet homme est dans le classement. Enfin, non, parce qu'il y a quand même beaucoup de points pour qu'il soit dans le classement. Mais c'est à cause de toi quand même.
Oh.
Oui, non, culpabilisons les gens, Shinji. Hein, faisons leur comprendre qu'ils ont peut-être détruit la F1 à cause de ça.
C'est vrai que toi, tu lui as pas donné de points. Hein. Mais donc, à la 7e place, c'est Nico Rosberg. Hein, et justement, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui disait oui, il faut l'exclure du top 10. Après, c'est vous qui votez.
Voilà.
Alors, c'est vous qui voyez.
Voilà. Il aurait quand même mérité une sanction. Il y a quand même un truc de pas normal qui n'est rien.
Oui, c'est que voilà, c'est qu'il y a un règlement et une nouvelle fois la FIA ne l'applique pas. Voilà, donc c'est voilà, le règlement, il dit mais en même temps, c'est-à-dire que j'ai pas envie non plus de blâmer Rosberg parce que c'est ce que je dis depuis des années, c'est que en facilitant les attaquants, en privilégiant les attaquants, ce qu'on fait avec le DRS, on en rend la défense que plus extrême et c'est ce qu'on a vu avec Rosberg. Rosberg, bon même si on n'est pas dans la zone DRS, mais Rosberg, il a voulu se défendre de façon extrême et là en ne sanctionnant pas, on continue de donner aux pilotes des mauvaises habitudes.
Et parce que bon, on peut ne pas apprécier la règle, maintenant il y a une règle, justement, il faut qu'elle soit appliquée.
Mais c'est ce que disait Froissart dans l'émission Dimanche F1, il disait moi, ce qu'il a fait, ça me dérange pas, voilà, c'est des mecs qui se défendent. Maintenant, il y a une règle, et cette règle, il y contrevient. Donc il devrait être pénalisé en fonction de la contravention qu'il fait à la règle.
Mais est-ce que Alonso avait une roue au moins au niveau de l'arrière de Rosberg? C'est ça que je me demande. On voit pas bien sur l'image.
Ouais.
Parce que s'il était encore derrière, effectivement, c'est viril, mais il n'empêche pas Alonso de lever un peu le pied ou de passer de l'autre côté, quoi.
L'argument de comment s'appelle de la FIA apparemment, c'est de dire que sur l'accident d'Alonso, Rosberg a commencé à se déporter sur la droite avant Alonso. Il va falloir qu'il regarde les images parce que c'est Alonso qui commence à se déporter sur la droite et Rosberg qui lui ferme la porte.
Alors, ouais, mais ça se joue au-delà des réactions humaines en même temps. Ils sont en même temps au final.
Après, c'est un réflexe qu'il a fermé la porte. On va pas reprocher ça au pilote, mais quand même, là, dans le règlement, il y a un article qui dit contraindre un pilote à passer sur l'extérieur de la piste. Il a quand même fait deux fois. C'est pas deux incidents avec quatre pilotes différents. C'est deux incidents avec trois pilotes et à chaque fois le même. Au même endroit. Donc voilà, c'est à un moment donné, après le truc d'Hamilton, il doit se dire, bon, là, attention, faut que je fasse attention à mon coup de volant, parce que l'autre, il était obligé de passer sur le sable. Bon, on l'a vu aussi en GP2, les mecs s'en sont bien sortis, c'est du sable. Oui. Je pense aussi qu'il y aurait eu de l'herbe, il l'aurait pas fait. Il y aurait eu un mur, comme le dit Alonso, il dit, ah, il y aurait eu un mur, je serais mort. Non, je pense qu'il y aurait eu un mur. Bon, sans Rosberg, il l'aurait pas fait, là, il savait qu'il pouvait le faire. Mais la manœuvre, elle reste quand même, la défense serait quand même super limite.
Alonso qui était vraiment en colère. Non pas qu'il ne le soit jamais, mais au beau milieu de la course comme ça, c'est étonnant quand on a le team radio. C'est bizarre, il parle pas comme ça habituellement.
Mais moi, d'abord il y a la déclaration radio où à la fin il dit ok, où tu comprends, c'est j'aurais bien voulu être le mec dans le casque. Ok, Fernando, pas de problème, d'accord. Je veux dire, moi je me rapetisse dans mon fauteuil et en plus il y a la déclaration où il dit derrière non mais ça va, maintenant on est au courant. On verra ça sur
Twitter. Oui.
Il a dit maintenant on va s'amuser. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce paradoxe d'avoir une règle qui est arrivée en début de saison en disant on ne défend plus que sur une ligne, qui est sincèrement impossible à appliquer, qui a sans doute été contrevenue plusieurs fois depuis le début de saison et qu'on n'a rien dit.
C'est pas ça la règle.
Non, mais
la règle, c'est que quand tu reviens sur la trajectoire, tu dois laisser la largeur d'une voiture sur l'extérieur quoi, quand tu reviens.
Oui, non, mais c'est que quand tu vois là, le changement sur la règle qui a été introduite en début de saison en disant il faut on n'a plus le droit de changer qu'une seule fois de trajectoire, là c'est ce qu'a fait Rosberg. Il est dans les clous, il a changé une fois de ligne, voilà, mais on voit le côté exagéré du changement de ligne, donc c'est là aussi on se dit indirectement la FIA elle a provoqué ce genre de défense, c'est-à-dire que surtout venant de la part de Rosberg. Enfin, Rosberg c'est pas le pilote qui s'est manifesté depuis des années comme étant un pilote super agressif en piste. Vraiment c'est parce que aujourd'hui les pilotes en défense se retrouvent obligés d'être beaucoup plus agressifs dans leur défense.
Et sinon, pour revenir peut-être sur la course de Rosberg, vous l'avez trouvé comment? Parce que finalement, on s'est focalisé sur ces deux choses-là, mais...
Est-ce que tu as vu une autre partie de la course, Cindy, de Rosberg?
Bah non, c'est pour ça que je vous le demande.
Voilà. Non, mais si t'as rien vu, nous on a rien vu.
Mais on s'attendait peut-être à pire, vu la dégradation des pneus et les températures, et au final, ça a plutôt bien tenu. Je pense qu'ils ont peut-être trouvé un petit trick dans le setup pour améliorer ça.
Ils ont pas trouvé complètement non plus.
C'est quand tu vois la manière dont Schumacher se plaint après la course.
Oui.
Je suis bien d'accord que Pirelli a peut-être fait des choix en matière de pneus qui étaient voilà. Je me rappelle moi-même, c'est moi qui ai fait l'article pour dire qu'ils avaient fait les choix Bahrain et compagnie. Je m'étais dit sur le coup, je dis non, ils ont mis les pneus les mêmes qu'en Chine, alors qu'ils font les températures et les mêmes conditions plus ou moins qu'en Malaisie. Ils sont téméraires les mecs.
Oui.
Et voilà. Et bon, enfin, on a eu. Mais après, c'est-à-dire que c'est aussi pilote de faire avec. Moi, le discours qui consiste à dire mais la course, ça devrait pas être de gérer les pneus. Non, la course, c'est d'arriver à être le premier en gérant tous les paramètres de la course. Oui. Pirelli, c'est un paramètre de course. Donc Schumacher doit faire avec.
Et les pneus sont entre guillemets les mêmes pour tout le monde, hein. Donc voilà, faut les gérer. Hein.
Mais c'est ce qu'a dit Button en plus. Button, il a dit, moi les pneus, j'ai pas compris ce qu'il faut que je fasse avec. Mais en même temps, il y en a qui ont réussi à le faire avec. Donc voilà, donc il se plaint pas. Il dit c'est nous qui avons mal fait le travail. Et c'est ce que devrait se dire Schumacher. C'est pas la faute de Pirelli. C'est juste que Mercedes, ils savent très bien à quoi s'attendre avec les pneus. Et c'est à eux de faire le travail avec. Maintenant, c'est à l'équipe qui s'adapte le mieux. Là, dans le cas Lotus et Red Bull, qui sera devant.
Messieurs, on passe à la sixième place. Il a marqué 758 points, donc là, par contre, il y avait de l'écart. On en a déjà un tout petit peu parlé. C'est Fernando Alonso. Fernando qui finit septième, encore une fois. que rajouter de ce qu'on n'a pas déjà dit sur Alonso et sur cette Ferrari.
Bah, du moment qu'elle évolue pas.
Oui, c'est déjà. Il y avait pas. Écoute, ça va peut-être changer. Hein. Va peut-être y avoir un miracle.
Oui, c'est crucial ce qui va se passer là, le Mugello.
Ah, ils ont dit, hein, ils vont apporter des choses au Mugello, mais ils vont pas tout mettre au Mugello. Ils vont vraiment, ils vont travailler au Mugello. Ils vont, et sans doute, les nouveaux radiateurs, les nouveaux flancs un peu plus sculptés. On les verra peut-être au Mugello, mais après, il y a plein de trucs qu'ils vont en fait concevoir et finir concevoir et préparer pour l'Espagne et qu'ils mettront donc avant l'Espagne, mais en se basant sur les données collectées au Mugello.
Sur la course d'Alonso. En fait, je ne sais pas si c'est Massa qui a fait une bonne course et si c'est Alonso qui est peut-être un peu un ton en dessous, voyant que ça fait 4 courses, que c'est la même situation et que c'est dur et que.
Bah, c'est vrai que peut-être en même temps, ça fait 3 courses qui sauvent les meubles.
Ouais.
Il y a un moment, tu peux pas le faire tout le temps, quoi. Il y a bien un moment où bah ça doit peut-être aller un peu moins bien.
Ouais, un peu de lassitude.
Voilà, un peu de lassitude. Même si bon, là encore, on peut estimer que il s'en sort plutôt bien quand même avec cette voiture.
Oui.
Mais c'est une vraie énigme cette voiture parce que en course ils ont l'air quand même pas si mal que ça. Enfin, ils tiennent bien le coup, je trouve. Bon, peut-être à part en Chine où j'ai trouvé un peu plus faible, mais ils tiennent quand même très bien le coup.
Oui, parce que même Massa finalement il tient bien sur sa course. Hein.
Là, pourtant, ils ont eu les deux McLaren à se fader et Hamilton n'arrive pas à repasser Alonso. Il passe Massa, mais il passe pas Alonso. Voilà, Button non plus n'avait pas réussi, je crois, à passer Alonso. Peut-être juste avant d'abandonner. Voilà, donc mine de rien, en course, elle tient pas trop mal. C'est en qualif le problème. Je pense que vraiment, c'est le gros problème pour eux, c'est la qualif.
Moi, je trouve qu'elle est pas si ratée que ça cette Ferrari, mais le problème c'est que le peloton est resserré, est plus resserré que d'habitude. Donc évidemment, si t'es un peu moins bon, un peu moins bien, ben t'es encore plus bas que d'habitude. Et ça ne doit pas tenir à grand chose vu que c'est des échappements. C'est quelque chose qui quand ils sont mal réglés et pas assez performants, ça peut faire une grosse différence.
Puis là, ils étaient en détresse ce week-end. Ils ont passé leur temps à se battre avec la voiture.
Ils l'ont montré sur dimanche. Le problème, c'est que à chaque virage, il y a un problème et que quasiment à chaque virage, c'est un problème différent. Quoi. Parfois, c'est à l'avant, parfois, c'est à l'arrière. C'est terrible. Quoi. Rien d'autre à rajouter sur Alonso ?
Non. Je crois que Gus Gus a tout dit.
Eh bien, dans ce cas-là, passons déjà à la 5e place. Il a marqué 906 points.
Ouais.
C'est Marc Webber, le pilote Red Bull.
Là encore, il y aura pas grand-chose à dire.
On l'a pas beaucoup vu. Hein.
Mais sincèrement, sur cette course, en dehors des 3 premiers, on n'a rien. Enfin, moi, j'ai rien à dire.
C'est vrai.
Voilà. Sans...
Même les caméras, ils ont tout le temps été fixés sur les 3 premiers.
Webber qui est sorti aujourd'hui en disant, même au sein des écuries, il y a des écarts qui sont pas compréhensibles. Ça devrait pas exister. Enfin, là, c'est-à-dire que c'est un peu comme Massa qui disait, il comprenait pas ce qui marchait pas sur sa voiture et pas sur celle d'Alonso. Mais c'est toi, mon coco, qui marche pas. À la limite, qu'il y ait des différences de comportement et de gestion des pneus, etc., entre deux voitures. Mais là, entre deux pilotes, c'est pas une différence de voiture, c'est une différence de pilote, tout simplement.
Bah oui, là, ils avaient vraiment la même voiture. Pas comme en Chine.
Mais le pire, c'est que là, en étant régulier, s'il fait que des 4e places,
oui,
il n'y a jamais les mêmes mecs devant, le mec, il peut être champion du monde.
Il est 2e, là.
Bah oui. Bah avec Hamilton aussi, qui, bon, là, ça s'est pas trop vu, mais c'est quand même les plus réguliers, Hamilton et Webber, quasiment, hein, cette année.
Mais encore, Hamilton, il monte des trucs.
Oui.
Hamilton, c'est juste qu'en course, bah, la McLaren, elle est pas aussi dominatrice. Puis là, c'est Hamilton, il l'a dit. Hein, il a dit, faut qu'on regarde si en course, on n'est pas bon. Et ça a été crayon à Bahreïn. Mais Webber, bah, il est juste moyen. Voilà, c'est-à-dire qu'il est juste 4e en qualif, 4e en course. C'est un peu la musique de Webber.
Il va finir avec 240 points pile. Que des 4e places tout le long de la saison.
Ça dépend, il n'y aura peut-être pas le Grand Prix des États-Unis. Hein. Il y aura peut-être que 19.
Ah, c'est vrai. Ouais, je ne vais pas faire le calcul parce que bon, 20 x 12, c'est facile, mais 20
x. 116, il faut enlever. Ah non, il y a 228. Tu
retires 12 de 240. Ça fait chier, c'est...
C'est dur le calcul mental.
Oui, bah
je manie déjà plein de chiffres.
On va le mettre devant des chiffres et des lettres, tu vas voir.
Eh bien, dans ce cas-là,
d'ailleurs, je me demande si c'est pas Nicolas Tombazis qui a conçu le nouveau plateau des chiffres et des lettres. Parce que comme la F2012, il ressemble à rien.
Alors, vous remarquerez donc que Dino regarde des chiffres et des lettres.
Eh ben oui, tout à fait.
Bah lui, au moins, fait faire du calcul mental, du coup.
Dans ta gueule, j'ai dit. Merci, Gus Gus.
On va passer à la quatrième place.
Ah, mais je sais que je dis son fort, c'est la grammaire. Voilà, c'est la pure private joke.
Ah oui, effectivement.
Ça, ouais. Ah, mais ça, tu pourras couper, parce que c'est même pas compréhensible pour personne.
Ah, mais c'est pas grave.
On va passer à la quatrième place, avec un pilote qui aurait pu rouler pour Peugeot, hein, puisqu'il a fait 908.
Oh.
Et comme quoi, 2 points d'écart quand même, ouais. À ce niveau.
Qui aurait pu ne pas rouler pour Peugeot, du coup, cette année.
Oui.
Il roule pas Peugeot.
Ah bah non, c'est pour ça, quoi, jusqu'à l'an dernier. Oui, bon, on va pas parler du Mans, mais souviens-toi. Donc, à la quatrième place, on trouve Paul Di Resta. On n'avait pas entendu parler beaucoup des Force India, mais là, ils font une belle entrée.
Il a enfin un Gus. Enfin un Gilles, enfin un Gus.
Nous rappelons bien sûr que lorsqu'une mauvaise blague est faite dans le SAV de la F1, des petits chatons meurent. Donc, Paul Di Resta, 908 points, quatrième place. Alors, Gus Gus, tu l'as mis quatrième. Dino et moi, on l'a mis cinquième. Hein, donc, plus ou moins au même niveau. Enfin, on a vu des Force India. C'était pas gagné, mais on a vu des Force India.
Enfin, on a vu une Force India.
C'est mieux que zéro. Hein.
Oui. Non, mais ça commence à être un peu régulier que Di Resta finisse devant, fasse mieux globalement que Hülkenberg. J'ai pas les chiffres, mais sur l'impression, j'ai quand même l'impression que Di Resta fait, depuis le début de saison, fait mieux qu'Hülkenberg.
C'est vrai qu'Hülkenberg, on l'a pas tellement vu que ça au final. Disons que dans les 3 premières courses, les Force India n'ont pas été très à leur avantage, et donc là quand c'est Di Resta qui ressort, on marque mieux.
On l'a pas vu, mais il est quand même pour la 3e fois dans les points sur 4. Alors que Hülkenberg, ah ouais, 2 petits points en Malaisie. Oui, Di Resta, il a fait 1 point en Australie, 6 points en Malaisie et donc 8 points à Bahreïn.
Et il a mené la course.
Oui.
Ah, il a un peu joué le rôle des Sauber au final, il a tenté une stratégie de pneus qui s'avérait payante, et il a fait gaffe à ses pneus. Voilà, une belle course.
Ah, ça, les Force India qui ont pris un peu la place de Williams et Sauber cette semaine.
Oui, mais tout le monde prend la place de tout le monde.
Oui, c'est ça qui est génial.
La F1 maintenant, c'est un petit peu un où est Charlie, tu vois. Tu cherches où est ton équipe. Et tu mets minimum 30 secondes à trouver. C'est toujours pareil.
Messieurs, on va passer au podium. Et là, oui, attention.
Voilà, on va avoir des choses à dire maintenant.
Parce que si Di Resta, il était à 908 points, le troisième, il est à 1844.
Plus du double.
Bien.
Appelle-moi con.
Le compte est bon, Dino.
Le compte est bon. Et en troisième place, c'est Romain Grosjean.
8 lettres, pas mal.
Attends. Grosjean. 7 lettres. Ah, dommage. On est obligé de retirer votre mot, Gus Gus. Désolé.
Donc là, c'est bon. Vous aurez remarqué, après... Bon, il a fait 2 courses, bon, où il a fait maximum 5 tours. Et là, en 2 semaines, c'est pas mal, Romain.
Oui, c'est mieux, en effet.
C'est quand même mieux.
Moi, j'ai trouvé qu'il a été très patient et que ça se voyait sur les images, notamment la caméra embarquée au départ de la course. Pas au départ, mais au bout de 3-4 tours, on l'avait en caméra embarquée. Et on voyait qu'il forçait pas du tout, il était tout doux. Que dans le virage, dans le double gauche, les virages 9 et 10, le freinage en appui, il y allait tout doucement, qu'il cherchait à pas bloquer les roues, qu'il était très précautionneux avec les pneus, et finalement, donc ça a payé. On voit que par rapport à ses 2 premières courses, il a su tirer des leçons et apprendre à être plus patient, à être plus posé, et ça paye.
Alors, Dino, est-ce que tu penses qu'il n'a plus peur? Parce que vous savez, la fameuse thèse de Dino, c'est, oui, mais vous comprenez, Romain Grosjean, il est autour de pilotes qui sont champions du monde.
Mais je pense que là, il a surtout, ce qui est bien, c'est qu'il fait un super départ.
Magnifique.
Il fait un super départ et que, sincèrement, ce week-end, la Lotus, elle était au-dessus du lot en course. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a une impression globale de facilité dans sa course, dans ses dépassements, plein de maîtrise. Enfin, j'ai pas le souvenir que dans chacun de ses dépassements, il ait eu besoin de s'y reprendre à 2 fois.
Ouais.
Voilà. Hamilton, pareil, fait une grande embardée. Grosjean le suit, le dépasse à l'extérieur. Voilà, comme tu dis, on a vraiment l'impression d'avoir vu un pilote qui était en pleine maîtrise de son sujet, surtout avec contrairement à son coéquipier, avec une stratégie de pneus où il était un peu plus le couteau sous la gorge. Enfin, il a deux trains de pneus parce que lui, il a cramé quasiment tous ses pneus tendres en qualif. Donc, il a dû faire la course avec des pneus tendres usagés. Donc, voilà, là où enfin, Raikkonen, il avait que des trains neufs, ce qui est quand même un avantage. Donc, moi, je l'ai mis deuxième devant Raikkonen, justement parce que je trouve que sur la course, il y a une plus grande impression de d'aisance, cette facilité. Je trouve, voilà, c'était une course. Je l'ai vu gagner à un moment donné. J'aurais bien aimé qu'il gagne.
C'est vrai.
C'est vrai qu'il y avait ça semblait vraiment facile pour les Lotus dimanche.
Mais de toute façon, depuis le début de la saison, ils nous disent la voiture se comporte bien. On n'a pas de soucis. Il n'y a pas de loup. On peut en tirer le maximum à chaque fois, donc ça dépend des circuits, leur performance dépend des circuits et du fait que la voiture soit bien adaptée. Donc là, apparemment, ça convenait bien. Ils ont peut-être trouvé des trucs aussi pour faire durer les pneus plus longtemps. Donc au bout d'un moment, cette sérénité dans le travail, ça paye.
Non, puis on peut satisfaire quand même un podium. C'est quand même quasiment la garantie de rester en Formule 1 pour quelques temps. En tant que Français, il est quand même passé du statut il y a un mois où on se disait oh là là, mais s'il continue comme ça, il va se griller. Ou là, bon, il a un podium. On en a vu qu'il avait qu'un seul podium et qu'il avait pu continuer en Formule 1.
Non, mais on se rend. Les implications de ce podium peuvent être gigantesques parce que là, il y a plein de gens qui ont appris, par exemple, qu'il y avait un Français qui avait fait un podium en F1. Donc, ils vont peut-être regarder la F1.
Mais comme je disais au début, enfin voilà, c'est ce qu'on a cité ce week-end sur iTélé, ce qu'il y avait en bandeau, c'était dernière minute. Romain Grosjean, le premier Français à monter sur un podium depuis 98.
Je crois que c'est Belgique 98 avec Alizy.
Troisième. Ah, quelle course.
C'est pas celle où il y a gros carton au début.
Si, si, voilà. Si, bien sûr. Et oh, Schumacher qui rentre dans Coulthard et oulala.
Ah, et oui. Fin dans la brume.
Et après Schumacher qui veut rentrer une deuxième fois dans Coulthard mais dans les stands.
Oui, c'est ça.
Non, vous avez rien d'autre à dire sur.
Mais nous on a dit plein de trucs. Toi, Chenny, qu'est-ce que tu en penses? Confie-toi, n'aie pas peur.
N'attends pas Raikkonen.
Voilà. On sait que c'est dur pour toi de parler de Grosjean.
Ah non, non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Bon, je l'ai évoqué sur les qualités de la Lotus, sur le fait que justement, il n'avait pas fait d'erreur au début, il a fait un super départ. Ça, je l'ai dit. C'est parce que tu m'écoutes pas.
C'est vrai.
Hein.
Oui, c'est vrai.
Ouais, finalement, tu peux couper ce qu'il a dit.
Voilà. Voilà.
Allez, à la troisième place, c'est encore un score assez serré.
À la deuxième place, oui.
J'ai dit quoi, la troisième?
Oui.
Ah, donc oui.
Non, mais on a bien compris que t'étais fâché avec les chiffres, donc.
Oui, c'est ça, avec les chiffres. C'est pas grave, il y a que la première place qui compte ce soir.
Oui, oui, effectivement, la première place de mon classement compte beaucoup.
Donc est arrivé deuxième Sébastien Vettel avec 1874 points, donc 30 points d'écart, hein, à ce niveau-là, c'est pas énorme. Alors vous l'avez mis premier.
Ah.
Ah oui.
Bon, toi, on comprend que tu l'as mis deuxième, c'est ça?
Non, sache que je l'ai mis troisième parce que j'ai mis Grosjean deuxième.
Ah oui, je t'ai pas écouté pour ça.
Voilà.
Troisième? T'as de la merde dans les yeux, mon pauvre garçon, c'est pas possible.
Mais non, mais écoute, le cœur a parlé, donc voilà.
Oui, bah d'accord, mais t'as pas non plus le cœur à Grosjean. Ça y est, mon homme est devenu fan de Lotus, celui-là, regarde. Non, mais... Alors, il était fan de McLaren de. Alors, d'abord, il était fan de Sauber, ensuite, il était fan de McLaren de 2002.
Non.
Et ensuite, il était fan de Ferrari de 2006, de 2007 à 2010. Non. Puis après.
Une trajectoire étrange.
Voilà, après, il a eu en 2010 et 2011, il a eu. Voilà, il est tout d'un coup devenu fan de rallye. Voilà. Puis en Formule 1, il n'était plus vraiment très fan. Enfin, il n'avait pas l'équipe préférée. Et là, ça y est, il commence peu à peu à devenir fan. Il a failli être fan de Williams, mais non, là, il est fan de Lotus. Ah là 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 là, chidi.
Revenons sur la course de Vettel. L'homme qui fait des doigts de lapin.
Et c'est typiquement une de ces courses de 2011 où on sent que il n'est pas à 100% au final. Il part devant, il regarde un peu ce qui se passe derrière et selon ce qu'on lui dit, il gère. Et Et quand Raikkonen revenait dessus, alors il a été apporté, c'est vrai, Raikkonen, mais une fois l'orage passé, ben on a plus.
Oui, parce que sur le dernier changement de pneus, ils repartent tous les deux en médium, tous les deux neufs. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'était foutu.
Ouais.
Et il est toujours resté à 3 secondes à peu près.
Moi, ce que j'ai noté pour Vettel surtout, c'est le fait que à un moment donné, je l'ai vu troisième. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la course, les Lotus paraissaient si forts, je me suis dit Raikkonen va le déposer, il va aller gagner, et Grosjean, il va se battre avec Grosjean pour la deuxième place. Et donc dans ma tête, à un moment donné, je l'ai vu au pire troisième. Et mine de rien, quand tu regardes le classement à la fin, tu dis bah il est premier. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression dans la course, en dehors la tentative de Raikkonen que Vettel contrôle bien, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment été menacé. Il a su, apparemment il s'est plaint de son train de pneus tendre, où c'est là surtout que Raikkonen remonte le plus. Il a su laisser passer l'orage. C'est Vettel, c'est ce que j'aime dans les courses de Vettel, c'est que quand il sait laisser passer l'orage, faudrait qu'il arrive à appliquer cette stratégie-là et cette philosophie-là qu'il a quand il est en tête de course. Il faudrait qu'il arrive à l'appliquer quand il est en milieu de peloton. Voilà, c'est-à-dire qu'il reste calme et qu'il se dise voilà, bah je suis cinquième, je suis sixième. Bah voilà, je reste cinquième, sixième, je laisse passer l'orage, pas faire ce qu'il a fait en Malaisie où il a fait un peu n'importe quoi. Là, je trouve que c'était vraiment une très belle course et c'est très rare quand je déloge le vainqueur. Et là, pour le coup, bah je me suis posé la question par rapport à Raikkonen, mais finalement, je me suis dit non, la victoire elle est méritée et logique. Donc voilà.
Il y a d'après vous un vrai retour de Red Bull où on peut imaginer que ça peut encore être distribué
Moi je pense qu'il y a un retour de Red Bull par rapport au... parce qu'ils ont essayé leur nouvelle configuration d'échappement qui est encore différente que d'habitude sur le fait qu'ils ont fermé le petit tunnel qu'il y avait en dessous. C'est-à-dire que le tunnel était apparemment un problème pour eux parce qu'il y a une partie des gaz d'échappement qui passait dedans, donc qui allait sur le dessus du diffuseur et qui donc c'était contre-productif. Donc ils ont fermé le tunnel pour, donc les pontons c'est presque exactement ceux de Sauber, et je pense que ça s'est avéré payant le temps de maîtriser de refaire un tunnel qui marche mieux et qui permette d'avoir les avantages et de pas avoir les inconvénients.
Mais Sébastien l'a dit en conférence de presse après la course, il a dit les mécaniciens et les ingénieurs, ils ont pas dormi, ils ont testé voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pris tout ce qu'ils avaient déjà conçu depuis le début de l'année et ils ont tout essayé. Ils ont essayé tous les assemblages possibles, etc., pour trouver la solution. Et c'est comme ça que ça va avancer. Hein. Maintenant, est-ce que ils vont reprendre ? Ce que j'aime beaucoup, c'est Red Bull et Vettel ont gagné une course. Donc tout d'un coup, les gens se disent oh, pourvu que ça ne devienne pas comme en 2011. Voilà, je pense que ça ne reviendra pas parce que derrière aussi ça va réagir et que ça reste très très mélangé. Mais au moins ils sont revenus vraiment dans la lutte, ce qu'ils n'étaient pas depuis début de saison. Mais en même temps, leur problème n'était pas non plus c'était des problèmes de riches. Hein, c'est quand même ils ont quand même une bonne voiture à la base. C'est pas une poubelle qu'ils ont la RB8. Mais voilà, faut juste la peaufiner. Et c'est justement ce qui est encourageant, tu disais tout à l'heure pour Ferrari, Gus, c'est ce qui est encourageant pour Ferrari, quoi, c'est qu'on se rend compte que finalement, avec des petits trucs, c'est tellement serré aujourd'hui qu'on peut se retrouver devant et se retrouver pour se battre, en ayant juste corrigé quelques petites erreurs. Et si Ferrari arrive à corriger quelques petites erreurs, à se donner un peu plus de marge de manœuvre avec sa F2012, on sait jamais, quoi. C'est ce qui est intéressant, je trouve, dans le championnat.
On passe à la première place, messieurs.
Oh, allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Il a marqué 2411 points, nouveau record.
Un nouveau record de quoi ?
Bah pour le nombre de points cumulés pour un pilote, quoi.
Bah non. Il y a eu 4000 et quelques il y a deux semaines, il y a un mois.
C'était pas 2000 et quelques. Ah oui, tu as raison. Je pensais que c'était 2000. Non, parce que le deuxième était à 2000. Non, enfin,
c'est que ça m'arrange.
Rappelle-toi Pérez, 4200 quelques.
C'est vrai. On attend des chiffres cette année, c'est...
Mais est-ce qu'on sait si Rosberg a fait l'unanimité, finalement, la semaine dernière ?
Ben non, on sait pas.
Vous savez pas combien de gens ont voté ?
Non, on a juste le total, en fait. On n'a pas vos votes individuels.
D'accord.
Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que bon, on ferme pas le vote tout de suite après. On vous dit, on arrête à 19h, on regarde le classement à 19h, puis après, en fait, on ferme le vote un peu plus tard. Donc du coup, je crois que Rosberg, la dernière fois, il a pris 168 points en plus, je crois. Donc là, il a pas fait l'unanimité, ça pour le coup.
Oui, bah oui, s'il a.
Donc Kimi qui finit deuxième, mais qui finit premier, parce que les gens qui lisent F1 et qui écoutent le SAV ont bon goût, ça c'est bien connu.
Ouais.
Que dire ?
Bah, vas-y.
Quatrième course pour son retour, deuxième place. Il part 11e. Alors, c'est vrai, il bénéficie hein, de ses pneus. Il n'a que des trains de pneus neufs qu'il a parfaitement su exploiter. Bon, il n'a eu qu'une seule occasion, en tout cas, c'est ce qu'il dit, où il aurait pu dépasser Vettel. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et puis, lors du dernier ravitaillement, on l'a évoqué, hein, Vettel et Raikkonen avaient tous les deux des pneus médium mais neufs. Donc, voilà, l'écart était scellé. Non, oui, c'est une première place parce que c'est le grand retour de Raikkonen quand même.
Ouais, ouais.
Oh non, il fait que deuxième.
Non, mais.
Ça fait trois ans qu'on attend qu'il fasse un podium.
Non, mais voilà, non, mais c'est pareil, tu compares par rapport à Schumi. On a bien vu depuis le début de saison que, voilà, enfin, c'est pas surprenant de voir Raikkonen faire une deuxième place. Depuis le début de saison, il est bon. Donc, voilà, Schumi, voilà, au début, on disait, on n'a pas retrouvé le vrai Schumi, puis il avait une mauvaise voiture. Là, il a une bonne voiture, et il est bon, voilà, les deux ans, il a continué à faire la compétition. La comparaison avec Schumi, elle a strictement aucun sens. Là, il fait une bonne course. Maintenant, en course, pour moi, il bénéficie quasiment essentiellement de ses pneus neufs, parce qu'il est le seul à avoir fait la course qu'avec des pneus neufs, je crois pas me tromper, en tout cas, parmi les 10 premiers de la course. Et puis, enfin, sincèrement, je n'ai pas souvenir en course d'un seul dépassement de Kimi. Enfin, à part au début de course face à Massa et compagnie. Mais sinon, après, il a gagné des places parce que les autres sont rentrés au stand, que lui avait 2-3 tours de plus dans ses pneus et que c'est à ce moment-là qu'il fait la différence. Il gagne 3-4 secondes et il se retrouve devant les mecs. Donc voilà, il fait une belle course. Maintenant, ça m'a pas non plus transcendé. Enfin, ça fait quand même la quatrième course. Celui qui dit ah, je suis surpris que Raikkonen il ait fini deuxième sur le podium. Il aurait déjà dû finir sur le podium il y a une semaine en Chine. Donc non, voilà, le coup pas... volant, on sait que
attends,
c'est toujours
parce
là.
Quoi. Les gens l'ont fait remarquer. S'il finissait sur le podium en Chine, il serait en tête peut-être du championnat.
Oui. Et puis s'il avait pas raté, il aurait été deux fois champion du monde.
Oui, bah oui.
Avec Messi, on fait plein de trucs.
Non, mais juste, voilà, sur les deux dernières courses. Voilà. Non, je serais plus modeste, je dirais que c'est juste un retour comme Niki Lauda, c'est tout.
Oui. Non, mais la comparaison n'est pas stupide.
Lauda bon, a gagné au bout de sa troisième course. Hein,
j'avoue que depuis que... Ah, c'est moins bien.
Oui.
C'est ça, tragédie. Hein
c'est pas aussi bien, mais voilà.
Mais j'allais dire un truc, mais je sais plus. J'ai commencé à dire, j'avoue.
Bon, bah, je parle d'abord, alors.
Vas-y, parle. Profite-en.
Pour moi, c'est la concrétisation de son bon retour, quoi. Parce que pour l'instant, ah oui. ça s'était pas concrétisé par un résultat fort.
Oui, comme l'a dit, c'est pas une surprise en soi. C'est une concrétisation. Ouais. Je pense que surtout beaucoup de gens sont heureux. C'est vraiment pour histoire de dire, voilà, c'est bon, quoi. Il est de retour. Point. Oui. Vas-y.
Bah, j'avais pas plus à dire.
Ah,
et voilà. Alors moi, quand je parle, tu parles trop, puis voilà, t'as tout dit en 20 secondes. Comment veux-tu que je parle pas après? J'ai oublié de parler.
Bah vas-y.
Vas-y.
T'avais un début de phrase, j'avoue.
Voilà, bon, non mais j'avoue hein, que...
Non, mais... Vas-y, trouve un proverbe, vas-y.
Je trouve qu'il a quand même... Ah non, mais je l'ai.
Non, pas cette semaine.
J'en ai même deux. Au cas où, on ne sait jamais. Mais je trouve quand même que Kimi, il a, c'est aussi parce qu'il a cette grande vague de fans qu'il est aussi bien noté. Enfin, c'est Fab qui le dit. Là, sincèrement, je pense pas qu'il mérite d'être 500 à quelques points devant Vettel. Gagné peut-être, mais je trouve que là, sur le coup, il est pas mal aidé parce que c'est Kimi Raikkonen et que voilà, que c'est un pilote que tout le monde aime bien et compagnie. Maintenant, je pense que c'est la même course faite par un autre. Il est pas aussi bien. En tout cas, il a pas autant de points.
Quelque chose à rajouter? Non.
Non, c'est à toi de parler, la chimie.
C'est bon, je l'ai assez dit, puis tous les fans de Raikkonen, bravo et merci, vous avez bon goût. Tu vois, moi, je suis fan, mais en plus, je flatte les autres fans.
Oui.
Comme ça, pour les prochaines courses, ils continueront à voter pour Raikkonen.
Me force pas à les déflatter, j'ai dit.
On va passer au classement, et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, au classement des pilotes, avec 54 points, Kimi Raikkonen, non? Ça vous fait ni chaud ni froid.
Mais tu vois, c'est pour le coup, c'est la preuve.
Ah oui.
Que il est surnoté. non mais sincèrement, est-ce que Kimi Raikkonen, ça se justifie sur le début de saison qu'il soit numéro 1 de notre classement?
Je me souviens que c'était en Malaisie, parce que même moi, j'avais trouvé que c'était un peu abusé, je crois. Il avait fini troisième.
Oui, voilà. Enfin, voilà. Pour une fois, je trouve pas autre chose à dire, mais voilà.
En même temps,
au final, qui oui. s'est mis au-dessus du lot? Il n'y a pas vraiment, peut-être Hamilton, malgré les circonstances, mais sinon.
Bah, justement, pour le coup, le classement est très significatif, j'ai envie de dire. Parce qu'en effet, Kimi est premier avec 54 points. Mais en deuxième, on a ex aequo Button et Alonso avec 47 points.
Attends, il y a 7 points d'écart.
Oui, oui.
C'est énorme, 7 points.
Non, mais tu te rends compte quand même que les deux premiers, c'est Raikkonen et Alonso. Un que tu as toi-même dit qu'il était surnoté. Et puis, honnêtement, on pourrait dire la même chose d'Alonso. Par rapport à ce qu'il fait en ce moment.
Non. La différence, c'est qu'Alonso, il a une mauvaise voiture. Oui. Donc, du coup, ça se comprend un peu que les gens le surnotent parce qu'ils tiennent compte du fait qu'il a une mauvaise voiture. Kimi, il a une bonne voiture.
Il y a aussi une belle base de fans.
Je suis bien d'accord qu'Alonso a une bonne base de fans, mais c'est-à-dire que avec ce qu'arrive à faire en ce moment Alonso, avec une mauvaise voiture, le fait qu'il soit à 10 points au championnat de Vettel, c'est quand même voilà, enfin, on aurait dit ça à n'importe qui avant le début de saison, on serait dit ah, c'est bon, arrête de foutre de notre gueule, quoi, c'est bon. Là, c'est quand même surprenant, et je pense que du coup, le niveau d'Alonso dans le SAV le reflète bien que ce soit surprenant. Moi, je trouve que Kimi en tête, Kimi mérite d'être bien classé, il fait des belles choses, mais de là à ce qu'il soit en tête, je trouve par exemple, voilà, comme tu disais Gus, un mec comme Hamilton, le fait qu'Hamilton soit même pas deuxième ex aequo, alors que c'est quand même le mec qui fait deux pôles, il a quand même fait trois podiums.
Pour vous dire, Vettel, il a 45 points et on trouve seulement après Hamilton avec 43, donc c'est serré, mais il est quand même derrière.
Ouais, Hamilton, il a 10 points de Raikkonen, 11 points. C'est de l'arnaque ce classement.
Chez les constructeurs, McLaren 90 points. Red Bull 83, Lotus 79, hein, forcément, et Ferrari 48.
Ouais, c'est un peu plus normal.
Oui. Forcément, ça rééquilibre.
Ah bah, d'un coup, voilà, quand tu mets Ferrari dans le classement par équipe, d'un coup, c'est sûr.
Dans l'autre classement, c'est Vettel qui bifurque en tête, hein, grâce à sa victoire. 53 points devant Hamilton 49, Weber 48, et on a Button et Alonso à 43 points.
Et dans le classement du SAV, Grosjean, il y a combien de points?
Grosjean, il a 25 points.
25 points.
Il est 9e du classement.
Il avait été mal classé en Chine. Enfin.
En Chine. En Chine, il avait eu que 10 points.
Bon, ça va, c'est déjà pas mal.
Et donc, dans l'autre classement constructeur, Red Bull est à 101 points devant McLaren 92 et Lotus 57. Mais si on va passer au fait marquant.
Ouais.
Il n'y a pas les drive-thru avant?
Ah bah,
si
tu veux en faire
un. Oui,
j'ai un drive-thru.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Oui, j'ai un drive-thru un peu général sur l'ensemble du début de saison pour les gens qui sont impatients. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui jugent sur la base de deux ou trois courses ce qui va se passer sur la saison. Alors qu'au final, la saison, elle est ultra serrée, que à chaque course, ça change et que sur cette base-là, on peut difficilement faire des prédictions ou avoir un jugement clair et définitif sur des pilotes ou des voitures. Donc ça, j'ai trois exemples là-dessus. Donc déjà Grosjean, on en a parlé, évidemment, il a fait deux mauvaises courses dès le début, mais tous ceux qui, au bout de ces deux courses, le raillaient, le moquaient, il a répondu sur la piste et j'en suis très content. Sur Massa, j'ai trouvé qu'on avait exagéré, même si effectivement il a pas fait un bon début de saison, il fait ce qu'il peut et il a une F2012 qui est pas bonne, mais qui est pas ratée à jeter ou à changer de manière urgente comme on peut le lire ici ou là. Voilà, donc c'était juste pour pousser ce petit coup de gueule auprès des gens qui jugent un peu vite.
T'as compris, Chédé?
Oui, tout
alors
à fait.
Attention à l'avenir, s'il te plaît, merci.
Écoute, ça fait deux courses que je n'arrête pas de demander aux gens. Vous pensez pas que justement ça va être super serré et qu'il faut faire gaffe?
Oui, mais tu penses tellement fort que.
C'est tout?
Pour le moment. Oh, faut que j'arrête. Il faut que t'arrêtes aussi de dire c'est tout, je dis. Parce que moi tu dis c'est tout et moi je me prends.
Mais oui, mais après j'ai un plan, alors moi je préfère demander, être sûr avant de relancer sur autre chose. On va donc passer aux faits marquants et on va revenir sur. Ce grand combat qu'il y a eu pour le Grand Prix de Chine, Hein. Donc, quel était selon vous le fait marquant
du... Ah, cette question naïve, tu veux dire.
Donc, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix de Chine? Vous avez été 80 à voter, merci. Est arrivé 3e avec 9 votes, 11,25%, la non-qualification de Vettel en Q3.
C'est même pas toi.
Tu vois comme quoi les choses n'étaient pas écrites.
C'est excellent.
En deuxième place, 20 votes, 25%, le faible écart entre les équipes.
20 votes?
Oui, 20 votes.
C'est fou ça.
Et donc arrivé premier, avec le médiocre score de 51 votes et 63,75%, qui est donc un score médiocre, hein, vu ce qu'on attendait.
Oui.
Moi, je m'attendais à du 70, du 75, du 80%.
Oh, eh bien, ouais, tu dis.
Eh ben, quand même, Rosberg remporte sa première course.
We are the champion of l'effet marquant de la course.
T'as juste deux victoires.
We are the champions of l'effet marquant de la course.
Voilà. On nous annonce une tornade sur la Réunion.
Vous irez vous plaindre en premier.
C'est le SAV de The Voice.
Et donc, c'est à Gus Gus. Quel est, selon toi, le fait marquant de ce Grand Prix?
Je pensais pas que ça allait être à moi en premier, en fait.
T'avais pris des sujets de merde, c'est ça? Alors, qu'est-ce que je vais trouver?
Non, mais j'en ai plein à choisir, en fait. J'ai quatre trucs, donc...
Oula. Si tu veux, on t'aide.
Non, ça va. Mais je vais être démago.
Il faut.
La confirmation du retour de Raikkonen.
Oh... C'est un beau match, hein, le Chelsea-Barcelone.
Oui, merci.
Alors, c'est à moi. Je vais dire le premier podium de Grosjean. Je suis bien obligé, hein, tu m'as piqué Kimi, alors...
Attends.
Je crois que j'ai gagné.
Fais gaffe, par les temps qui courent, il faut faire attention.
Non, mais je crois que je peux gagner.
Choisis bien, choisis but.
Alors, Dino.
Un Grand Prix sous haute tension.
Donc, cette semaine, nous vous proposons comme fait marquant du Grand Prix de Bahreïn, soit la confirmation du retour de Raikkonen, ou le premier podium de Grosjean, ou bien un Grand Prix sous haute tension.
Bien match, hein.
Voilà. Donc, n'oubliez pas, pour voter, il suffit de vous rendre sur le site Fan F1, sur l'article dédié à l'émission du SAV de la F1 du Grand Prix de Bahreïn. Si vous écoutez à partir du site, hein, et de l'article, hein, normalement, vous avez même déjà voté. Eh bien, dans ce cas-là, messieurs, on va passer... C'est quoi donc? C'est au concours?
Ouais, le concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Pas Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, rappelez-vous le concours Top à Position la semaine dernière. La question nous était posée par Germain et elle était la suivante. Quel est le premier pilote ayant la boîte crânienne essentiellement composée de vide à avoir tourné sur le circuit de Sakhir? Shinji, Gus Gus, par hasard, avez-vous la réponse?
Alors, je n'ai pas la réponse, même si on peut imaginer que plusieurs réponses soient possibles.
Alors, moi, je t'ai envoyé une réponse.
Ah, donc, je vais vous lire les réponses, et après je vous donnerai la réponse.
Puisque, bah, on peut le dire, ça peut soit être la première personne qui a roulé sur le circuit de Sakhir, comme ça peut être la première personne dont on considère qu'il a la tête presque vide à avoir roulé sur le circuit.
Voilà.
Vous voyez la nuance? D'où la possibilité de plusieurs réponses.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner les réponses. Mmh. Après, je te donnerai la réponse qu'on nous a envoyée.
D'accord.
Et puis, tu jugeras en fonction de tout ça.
Voilà.
D'accord. Parce que, autant te dire que personne n'a la bonne réponse. Donc, alors, j'ai une première réponse. Voici la réponse la plus tentante à la question est Giorgio Pantano. Il faut vraiment être stupide pour penser qu'un titre en GP2 après 7 ans passés à l'échelon inférieur va lui donner un quelconque crédit auprès des écuries de F1. D'ailleurs, le vide caractérise bien sa carrière après son titre en GP2.
C'est argumenté, donc.
Et nous avons une deuxième réponse, qui est la suivante. Le pilote qui a le crâne composé essentiellement de vide est Neeran Kartikeyan. Car un cornichon ou un concombre n'a pas de cerveau. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Vettel.
Ouais.
Et la vraie réponse, c'est Jean Alési, dont on ne peut pas douter que parfois il a le cerveau un peu vide. Puisqu'il faut rappeler que Jean Alési, lors d'inauguration du circuit de Sakhir, avait été invité par les organisateurs et est donc le premier pilote à avoir roulé sur le circuit de Sakhir.
Oui. J'ai envie quand même d'accepter, parce qu'elles sont argumentées. Comme on l'a dit, il peut y avoir plusieurs réponses, tout dépend comment on considère la question. Et la question était suffisamment large pour accepter plusieurs réponses.
Donc on accepte les deux alors?
Oui, puis en plus, ça serait un peu la merde si on n'accepte pas les deux.
Ok. Alors maintenant, Shinji, je vais te... Alors, Gus Gus, tu ne dis rien.
Ah, attention.
Je coupe le micro. Parti pris. Hein. Shinji, je vais te poser les deux questions.
Oui.
Et tu vas avoir, crois-moi, ça va vraiment être lourd. Tu vas avoir la lourde tâche de les départager. La première question est la suivante. Combien de Grands Prix de F1 ont eu lieu en Catalogne?
Quoi?
Et attention, la deuxième est la suivante. Sur combien de circuits se sont déroulés les Grands Prix d'Espagne jusqu'à maintenant? C'est grosso modo deux questions qui se ressemblent plus ou moins.
Oui, oui, qui sont du même type, du même genre. La question est, suis-je plus toute l'Espagne ou suis-je seulement la Catalogne?
Oui, en prenant le risque de te fâcher avec pas mal de Castillans.
Oui, tu sais quoi? Alors, ne me dites rien.
Ne me dites rien.
Ne me dites rien. Mais là, on est bien d'accord que Barcelone joue.
Oui.
Je n'ai pas vu le score, hein, je précise. Hein. Parce que moi, j'ai plein d'écrans pour gérer l'émission. Hein, donc, je suis pas comme les deux autres. Hein. J'ai pas regardé le match de foot. Hein.
Non, non, moi, c'est juste que j'ai une télévision devant mon ordinateur.
Alors, est-ce que tu peux juste me dire, est-ce qu'il y a égalité ou pas?
Dans le score, il n'y a pas égalité.
D'accord, très bien. Si Barcelone mène, je prends la question sur la Catalogne. Et si c'est Chelsea qui mène, je prends la question sur l'Espagne. Je prends le critère du match de ce soir, 24 avril à 21h39. Comme ça, tout le monde pourra vérifier le score qu'il faisait à 21h.
C'est la mi-temps, donc.
Voilà, donc le score à la mi-temps. Donc, au score à la mi-temps du match, si Barcelone mène, je prends la question sur la Catalogne. Si c'est Chelsea mène, je prends la question sur l'Espagne.
Donc, il s'agira de la question... Combien de Grands Prix de Formule 1 ont eu lieu en Catalogne, puisque Barcelone mène à la mi-temps 2-1.
Voilà.
Je vends un peu le score, excusez-moi.
Oui, oui, je viens de regarder.
Et nous pouvons féliciter, je pense que ça lui fera plaisir de là où il se trouve chez lui, très loin, dans un pays lointain. D'ailleurs, je crois que Shinji, on va faire un truc extraordinaire. Tu sais quoi? Oui. Shinji, Gus Gus, je pense qu'on va faire un truc qu'on n'a jamais fait en Formule 1. On va appeler le vainqueur. Allô, Gus Gus, tu nous entends?
Oui, je vous entends, youpi!
Eh ben, bravo! Puisque c'est ta question qui a gagné. Et donc, hein, nous vous rappelons les règles
Voilà, je ne savais pas quelle question avait mis Gus Gus, et je connaissais même pas le score du match.
Arrête, non plus. Tout le monde sait que c'est truqué, arrête.
Tout le monde sait que c'est truqué, ouais.
Voilà. Donc, la question de Gus Gus, je vous la rappelle, c'est combien de Grands Prix de Formule 1 ont eu lieu en Catalogne? Précisons bien qu'il s'agit de Grands Prix de Formule 1 et que ça n'inclut donc pas, par conséquent, le prochain Grand Prix, hein, qui sera le Grand Prix 2012, qui se disputera à Barcelone, donc en Catalogne, mais qui... par rapport aux gens qui vont répondre, n'aura pas été disputé avant, donc ça peut créer des... Voilà, soyons clairs.
On prend pas en compte le Grand Prix de cette année.
J'aime bien être clair.
Voilà.
Donc, pour répondre, il suffit de nous envoyer un mail sur concours@savf1.fr. Voilà, vous nous envoyez une question donc pour le Grand Prix suivant, qui sera le Grand Prix de Monaco. Vous avez jusqu'au mardi après le Grand Prix d'Espagne pour se faire vers 18h. Voilà. Et avec votre question sur le Grand Prix Monaco ou sur Monaco en général, vous nous envoyez aussi la réponse à cette question pour pas qu'on aille l'air con quand on donnera la réponse. Et ça va, j'ai été clair, tout, nickel.
Aussi clair que moi.
Oh, comme, magnifique.
Comme d'habitude.
Et donc, bravo Gus Gus, hein, tu remportes un petit, parce qu'on le répète rarement, mais un petit papier avec ton nom dessus pour le tirage au sort en fin de saison, le tirage au sort du concours Top à Position.
Oui.
Youpi.
Qui n'a pas de nouvelle musique parce qu'il n'a jamais eu de musique. Mais, quand même, faut le dire. Parce que Christophe Lagrange nous a souligné qu'il y avait une nouvelle musique, qui est, je crois, une nouvelle depuis 2-3 Grands Prix.
Ah, d'habitude, oui. Il ne l'entend pas dans le game.
Voilà.
C'est vrai. C'est con.
Ah, d'ailleurs, si je devais leur donner un drive, c'est qu'ils ont passé tout leur vendredi à se plaindre.
Oui.
Ah, on n'a pas les temps, etc. Excusez-nous, on peut pas avoir les informations sur place, etc.
Mais c'est fou.
En même temps, tu fais que vivre ce que nous on fait tout le temps, quoi. Donc voilà.
C'est fou que nous on était deux devant la télé, on en envoyait trois fois plus qu'eux, quoi. Enfin, c'est impressionnant.
Oui, j'ai adoré quand il s'est plaint de l'appui officiel.
Non, et puis surtout c'est pas comme si quand ils étaient sur place, ils voyaient la course en dehors des écrans. Enfin voilà.
Oui.
Oui. Et en plus.
Et il voit la course exactement pareil que nous, quoi. C'est...
Et en plus, on a vu qu'ils comprenaient toujours pas les radios, alors qu'au final, ils ont pas les voitures là-bas.
Voilà.
Oui, c'est même plein de l'appli officiel qui passait pas. C'était drôle.
Oui. Alors qu'il était. Alors, en même temps, ça expliquait que c'était difficile d'accéder au live timing.
Oui.
Et qu'on était effectivement très heureux d'avoir l'appli officielle.
Mais si on va donc se tourner vers le prochain Grand Prix qui aura lieu dans trois semaines, c'est le retour en Europe.
Oui.
Grand Prix d'Espagne. Mais même si avant ça, il y aura les essais, mais on y reviendra après. Est-ce qu'on fait un truc des 7 parce qu'on avait, on ne l'a pas prévu finalement vu que c'est Gus Gus qui.
Moi je l'ai préparé moi.
Waouh.
Wow. Wow,
eh, c'est un gars sérieux quand même.
Waouh, dis donc. De toute façon, on lui a rien dit en plus.
Ouais.
Ouais.
Nous on s'est dit c'est une émission un peu bizarre, enfin voilà, où vraiment on fait le minimum. Voilà, on improvisera. Puis non, il n'improvise pas.
Non, jamais. Bah, dans ce cas-là, Gus Gus, peux-tu nous rendre service en nous disant les 7 choses que l'on peut faire? Ouais, à la place du Grand Prix d'Espagne.
Il y en a une que Dino a empiété sur le dessus tout à l'heure.
Ouais, c'est ça marche pas à l'heure, désolé.
Non,
j'avais dit une sieste avec Michel Drucker.
Ah. C'est voilà. Pas forcément avec Michel Drucker, mais...
Non, effectivement, mais... Vous avez compris.
Voilà.
J'avais aussi profité pour voir sa famille, faire une réunion de famille, manger tous ensemble.
C'est pas con.
Voilà.
Non mais les gens qui n'aiment pas la F1 n'ont pas de famille. Seul.
Les gens qui n'aiment pas la F1 n'ont pas d'âme.
Pas d'âme, pas d'âme.
Non, surtout pas. Parce que ça m'a traversé l'esprit.
Il est impossible.
Ça m'a traversé l'esprit. J'ai dit non, faut pas. donc après, oui, si il fait beau, profitez-en pour aller à la piscine municipale ou à votre propre piscine si vous en avez, si vous avez la chance d'en avoir une.
Ça c'est si il fait beau.
Oui. Et s'il fait pas beau, profitez-en pour bricoler.
Ah, on n'a pas encore fait ça, je crois.
C'est vrai, non, il a raison.
Cinquième truc à faire, rattrapez vos séries en retard si vous êtes fan de séries.
Oui, puis en plus c'est les fins de saison, donc c'est plus facile à rattraper parce que.
Et faites comme moi, pensez que Desperate Housewives s'arrête bientôt, donc c'est le moment pour faire tout votre retard. Mm. Voilà. Je viens de vendre un gros secret. Oui,
c'est bien,
un
très bon conseil. Ah, et regardez Fringe, surtout en ce moment, c'est... Ouh.
Ah merde, j'ai raté le dernier épisode.
Ah, faut pas le rater, le dernier épisode. Vas-y, continue.
Alors aussi en série, on peut conseiller Sherlock, hein, que j'ai découvert grâce à Shuji. Oui. Et aussi Broadwalk Empire.
C'est bon, Gus, c'est bon.
Ouais.
Quoi que tu me diras, c'est pas vraiment la période, mais il y a aussi Dexter aussi, vous pouvez vous le
faire. Non, c'est faux.
Sixième truc à faire.
Par contre, Mad Men, je suis pas très.
Non. C'est lui qui après nous envoie des mails. Oui, non, mais c'est un peu.
Bon, mais non, mais là, je me permets parce que je sais, je suis dit qu'on est dans les clous.
Ça fait mal d'ailleurs d'être dans les clous. Sixième truc à faire à la place d'un Grand Prix de F1. Bah, justement, pensez à des proverbes envoyés à Dino.
C'est vrai.
Ça c'est une vacherie quand même.
Oui.
C'est joliment dit, mais c'est une belle vacherie.
Et septième truc, si vous avez plus de 50 ans, pensez à faire un examen de la prostate.
Le dimanche matin.
Le dimanche matin. Alors,
généralement le dimanche matin, les cliniques sont fermées. Donc tu le fais comment ton examen de la prostate? Faudrait que tu nous sois un peu plus précis.
En fait, c'était pour le casier prostatique, mais j'ai dit de la prostate.
Oui, oui. Je suis désolé, mais sincèrement, ce mot-là, je peux pas le placer. C'est impossible. Voilà, officiellement, Fab, je reconnais. On va se revoir bientôt, la semaine prochaine. Je le reconnais, mais je ne peux pas. C'est pas possible. Voilà.
À moins de le faire vraiment exprès, c'est voilà. C'est
oui, pas... voilà. J'ai déjà l'idée de l'article et tout qui traîne de côté, mais ça fait trop article exprès écrit pour glisser le mot prostate. Je ne peux pas. J'ai failli le mettre dans l'article que j'avais la semaine dernière. Voilà, j'avais mis une phrase dans l'article annonçant le SAV du Grand Prix en disant que ce qui était bien, c'est que Keke Rosberg, comme ça, n'avait pas à attendre l'âge des troubles prostatiques pour voir son fils lui succéder au palmarès. C'est pas de bon goût. N'importe où ça arrive, c'est pas de bon goût.
Non, c'est vrai. D'ailleurs, là, c'est pas de bon goût non plus, vraiment.
Mais si, on va passer au prono. Hein. Alors, c'est vrai que c'est dans 3 semaines qu'entre-temps, il y aura les essais au Mugello. C'est la semaine prochaine, les essais?
Oui, du 1er au 3 mai.
Et
les essais seront assurés en live, comme on a fait avant la saison, en live toute la journée sur fanf1.com.
Est-ce que vous avez quand même des pronos pour Barcelone?
Ferrari, Alonso. Non, allez, on va dire Lotus.
Moi, j'irais bien Hamilton, vu que les McLaren ont l'air d'être les meilleurs globalement, hein, et vu qu'il y a peu de surprises en règle générale au Grand Prix d'Espagne, même si ça me ferait mal, puisque j'aimerais bien que ce soit Kimi.
Ouais, justement, ça serait bien Kimi, parce que ça ferait le cinquième vainqueur en cinq grands prix sur cinq marques différentes.
Oui.
Mais déjà, quatre marques différentes, c'était pas arrivé depuis 82, je crois. Je crois que c'est Axel ou Ben qui l'ont mis dans les chroniques de la semaine. Voilà, quoi.
Et cinq pilotes, alors en marque je sais pas, mais cinq pilotes, c'est déjà arrivé, mais je crois que ça a dû arriver trois fois en 60 ans.
Oui. Mm. Bah justement, il faut y croire, Shinji.
Ouais, moi je dis Hamilton aussi.
Vous faites dans la facilité.
Vous faites dans la logique, on sait ce que c'est que le Grand Prix d'Espagne. Hein. Bon, ce qui fait mal au cœur, c'est que celui qui va gagner a 50% de chance d'être champion du monde à la fin de sa saison.
Et il suffirait que ce soit Button, et là, c'est quasiment 100% de chance d'être champion. Je rappelle que Button a quand même gagné le Grand Prix inaugural, ce qui est généralement bon signe.
Oui, c'est vrai. Écoute, hein, faut croire ce que dit Fittipaldi.
Oui, Fittipaldi est un homme fiable.
On arrive donc à la fin de l'émission. Merci Gus Gus de nous avoir accompagnés pour cette émission un petit peu particulière, vu le contexte.
Oui. Oui. Mmh. Directement comme ça, t'as fait l'émission auquel t'avais eu le droit de participer par ta victoire à l'émission précédente. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a des adresses à donner? Donc outre rappeler un minimum que le SAV est sur iTunes.
Et vous pouvez mettre une note.
Oui.
Compris entre 5 étoiles et 5 étoiles.
C'est mieux.
Voilà.
Hein, donc on a donné pour le concours. Rappelez qu'il y a le répondeur.
Le répondeur, répondeur@savf1.fr. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. Il y en a déjà, mais il y a deux émissions qui arrivent coup sur coup la semaine prochaine avec. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est Fab et Ben. Puis après, on retrouvera Gus Gus et Steph Core dans deux semaines. Donc ça, vous aurez vu tout le monde, toutes les associations
ouais,
possibles.
Toutes les combinaisons possibles.
Et donc ça, voilà, n'hésitez pas à envoyer des questions sur le répondeur. Il y a déjà des questions qui sont assez sympas. Oui, je parle de ta question, une named. Oui, oui. On se comprend.
Très bien. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation jusqu'à la prochaine course. N'oubliez pas, le SAV, ça continue la semaine prochaine. N'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sur FanF1. Et comme d'habitude... Non, j'ai pas envie de dire comme d'habitude, puisque cette fois-ci...
Comme d'habitude.
Voilà.
Parce que cette fois-ci, il a préparé, il a tellement été traumatisé par la semaine dernière qu'il a préparé.
Mais en fait, je crois que c'est Gus Gus, ou peut-être Globen, ça je sais plus, qui m'a mis le truc. Faut juste que je l'écris sur mon conducteur.
C'est moi, avec toute la modestie qui me caractérise, c'est moi.
Voilà, donc faut juste que... J'ai pensé, maintenant j'ai créé une ligne sur mon conducteur, proverbe, ce qui fait que quand je fais mon conducteur, je fais...
C'est fou, hein.
Ah, merde, le proverbe. C'est dingue ce que permet de faire la technologie aujourd'hui. Un stylo, une feuille, et d'un coup, clac, ça développe plein de trucs.
Et donc nous vous laissons sur ces quelques mots de poésie. Allez, ciao.
Alors, pour compenser le proverbe foireux de Shinji il y a une semaine, hein, mais en même temps, dont j'assume pleinement la l'existence même, puisque j'ai été incapable, en panne d'inspiration, en panne de cerveau, voilà.
On accouche.
Non, je vais profiter de ce moment, pour une fois que j'ai préparé. Hein. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire deux proverbes. En plus, c'est bien adapté, puisque on a eu deux grands prix. On a eu un grand prix sur la piste et un grand prix un peu en dehors. Donc j'aimerais d'abord faire un vrai proverbe qui s'applique à la situation au Bahreïn, et notamment à une petite crainte que j'ai que beaucoup de gens se soient mobilisés pour le Bahreïn aujourd'hui et qu'on en parle peut-être plus dans les semaines à venir. Et c'est le proverbe suivant, c'est un proverbe arabe qui s'interroge sur à quoi sert la lumière du soleil si on a fermé les yeux. Voilà, je trouve que c'est un très beau proverbe. Et puis bon, il y a un peu le proverbe à la con, hein. Puis là, vraiment, il est vraiment à la con, vous allez voir. C'est un proverbe que Shinji va sans doute comprendre. Puisque c'est le proverbe suivant. Tant qu'il y a Kimi, il y a de l'espoir.